et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Canada à Montréal. Une voiture grise, des coéquipiers dans le mur, beaucoup d'attentes et un final assez serré. Non, nous n'allons pas parler des 24 heures du Mans, mais bien de la victoire de Jenson Button. Pour m'accompagner, et j'espère qu'il aura pris des Kleenex ce soir, bonjour Dino.
Bonjour Shinji, t'as eu très chaud Shinji. Je ne dis pas pourquoi, mais t'as eu très très chaud.
Et donc Dino, oui. Qui nous accompagne ce soir?
Il s'agit de Fab, qui ne vient pas comme au début de la saison en tant qu'auditeur, mais cette fois-ci en tant que rédacteur de fadf1.com. Bonsoir Fab et bienvenue.
Bienvenue.
Ma cabane au Canada est tapis au fond des bois. Il y a des écureuils sur le seuil. Bonsoir.
Voilà. On va en subir déjà ses textes, déjà ses vannes, et ben maintenant on va subir ses chansons.
C'est... Attendez, ça va.
Mon fils.
Je pourrais faire des vidéos, hein.
Oh.
Voilà.
On ressort les casseroles.
Attendez.
Non, mais... non, ne dis pas ça, les nouveaux auditeurs vont aller chercher, c'est pas une bonne idée.
Oh mon dieu, oui, ma vie privée.
Donc, cette course, j'ai envie de dire cette magnifique course, cette course d'anthologie, cette grandiose course, cette course historique. Ah, pas... Sur tous les sites internet, on est passé par tous les superlatifs.
C'était pas la course d'anthologie, Chini, hein. C'était celle du Canada.
Oui.
Des fois, je me dis, mais pourquoi tu l'as fait? Je sais qu'au moment où je vais la sortir,
c'est toujours
je
pareil.
Sais qu'elle va être pourrie. Que
c'est, comme va... c'est comme une attaque de Lewis Hamilton.
Voilà. Oui, une course historique, Chini.
C'est tout? Bon bah au revoir hein.
Allez, salut.
Salut.
Non mais je sais pas, j'essaie de te relancer la balle. T'étais parti pour
t'avais, t'avais fait une liste de superlatifs incroyable.
Voilà. On aurait dit du Lewis Hamilton.
Oh non.
Non.
Ça c'est pas vrai parce que...
Ah non, j'ai trouvé mieux que Lewis Hamilton, j'ai trouvé Jenson Button.
Oui mais il a gagné, et... c'est normal.
Non voilà, lui c'était mérité quoi. Parce que là il nous en a mis une tartine, mais bon, il avait le droit, il avait gagné.
Ouais mais toi t'es intolérante. Tout ça parce qu'il est noir.
Déjà c'est pas vrai, il est pas noir.
Lewis n'a pas dit qu'il avait magnifiquement explosé sa suspension arrière.
Enfin, il a bien été aidé quand même.
Non, il a parlé, moi ce qui m'a beaucoup fait rire, peut-être la citation de la semaine, c'est qu'il a, il a parlé de Button, il a commencé en disant « Ouais, Button, il a fait une super course, c'était une course digne d'un grand pilote. » Et là, tu te rappelles, parce que moi...
On la remarque d'enculé.
Moi, je me suis rappelé quand même, parce que c'est moi qui fais la traduction de l'article, qu'il a quand même dit il y a quelques jours, mes trois principaux rivaux sont Fernando Alonso, Sébastien Vettel et Nico Rosberg.
Et on peut rajouter aujourd'hui le muret des stands.
Autrement dit que mon coéquipier, ça m'a étonné, j'ai failli le mettre d'ailleurs, c'est qu'il a quand même oublié son coéquipier qui est quand même le premier de ses rivaux. Eh ben non, il l'a pas dit.
C'était implicite.
Et sinon Fab, cette course.
Oh bah, fantastique. Non vraiment, très bien. En plus quand on sort des 24 heures du Mans qui ont été quand même d'un haut niveau. Le pire c'est que c'est vraiment... Quel connard, non mais c'est...
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge. Mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Oui, je sais, je suis une petite enflure. Mais je dois te dire, Shinji, que quand tu as fait ton introduction et que tu as parlé de voiture grise, etc., et qu'on n'était pas au Mans, j'étais là et je me suis dit, non, n'appuie pas, ça serait dégueulasse. Mais ça...
Ah oui, ça, c'est pas dégueulasse, là, espèce d'enfoiré.
Non, mais j'aurais quand même pu lui foutre en l'air son intro. Je me suis dit, non, mais plutôt foutre en l'air ce que va me dire le prochain. Donc, Fab, c'est justement, t'étais en train de dire, au moment où je t'ai coupé, t'étais en train de dire que c'est vrai qu'on a eu une belle édition des 24 heures du Mans. Et mon drive-through serait à l'intention des commentateurs des 24 heures du Mans, notamment un en particulier qui a fait la soirée et le matin, c'est surtout le matin, puis il a fait quelques interviews le soir, qui est pas vraiment un commentateur spécialisé en sport auto, je crois qu'il fait du foot et compagnie sur Eurosport.
Ah oui, Jameau, Christophe Jameau.
Ouais, c'est peut-être lui. Et donc, c'est juste un drive-through pour dire que j'en ai marre de tous ces commentateurs qui arrêtent pas de faire un comparatif entre leur sport et la Formule 1. Tout ce week-end, c'est vrai qu'on a eu une édition du Mans absolument fantastique, incroyable, qui avait tout d'une course de Formule 1, et les mecs se sont à chaque fois sentis obligés de dire, vous avez vu, l'endurance c'est mieux que la Formule 1. Non, l'endurance c'est l'endurance, la Formule 1 c'est la F1. Mais en plus, dire ça cette année, alors que les courses sont quand même relativement sympas à regarder, oui, qu'il y a de l'action, qu'il y a de la dramaturgie dans les courses, même si à la fin c'est toujours le même qui gagne, déjà c'est pas suffisamment se renseigner sur la Formule 1. Et puis plus globalement, c'est un drive-thru à l'égard de tous les commentateurs. Je me rappelle l'histoire des bleus là dans le bus avec Nysna là. Derrière, dès qu'il y avait une équipe de France, que ce soit le handball au mois de janvier, là, on n'arrêtait pas de nous dire ah regardez ça c'est une vraie équipe de France, etc. Ben, comparez pas non plus les situations. Arrêtons de faire des comparaisons entre sports. C'est même encore plus ridicule de le faire dans des sports qui se ressemblent autant sur la base des sports mécaniques, Le Mans et la F1, et de dire vous avez vu c'est mieux que la F1, etc. C'est, ne serait-ce même que le préciser, c'est d'une certaine manière, c'est réduire son propre sport en disant on est obligé de se comparer à la Formule 1. La Formule 1, certes, se présente elle-même comme le sommet du sport, mais ça n'est pas le sommet du sport. Il y a plusieurs sports automobiles aujourd'hui qui peuvent prétendre être des sommets du sport, chacun pour leurs particularités précises, le rallye, l'endurance, la F1, l'IndyCar, la NASCAR, qui ont chacun leur identité propre et qui, d'une manière ou d'une autre, sont chacun leur sommet. Donc voilà, c'était mon petit drive-thru contre les commentateurs, histoire de changer un petit peu des drive-thru à l'intention de monsieur Malbranck.
Et c'est vrai que quand on aime le sport auto, mais dans sa globalité, dans toutes ses composantes, quel magnifique week-end.
Ah ouais, ça.
C'était le pied.
J'ai même eu peur pour la F1 parce que je me suis dit, ah putain, on va passer après Le Mans. Et en fait, non. Bon, au départ, on a eu un peu peur, mais après, non.
C'est génial ce week-end, voilà, tout simplement. Allez, en attendant, on va passer à l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite. C'est pas drôle en fait.
Nous étions donc le 12 juin et encore une fois, je vais pas remonter à un truc super vieux parce que un.
Je crains
mais non,
que
mais...
tu dis ça. C'est 2003. Ah, c'est pas vieux.
Écoute, si tu veux, je peux chercher un truc super vieux, rien que pour toi, Dino.
Non,
rien
non,
pour te faire plaisir.
Non, Shinji, non, ne fais pas ça. Non, Shinji.
J'ai sous la main. Hein.
Non, Shinji, ne fais pas ça.
Non, je t'éloigne pas trop.
Shinji,
je peux remonter en 1005, hein,
Shinji,
si tu veux.
Shinji, reviens. Shinji, tu me poses cette souris. Quitte Wikipédia. Appuie sur la croix, s'il te plaît, Shinji.
La chaîne de L'Oréal.
Tu veux du 10 juin 1005?
Pose cette souris. Donc, récemment,
on va faire le 12 juin 1771.
Oh, bon, ça va.
C'est récent.
Ça va.
C'est raisonnable.
D'ailleurs, je me disais.
Attention, les gars, j'ai du 1451 aussi.
Je me disais aussi qu'est-ce que je faisais le 12 juin 1771. Je me rappelle pas, j'étais trop petit.
Et le 12 juin 1771, James Cook revient de sa première expédition en Nouvelle-Zélande, qu'il a été le premier à cartographier. Je ne sais pas s'il était déjà bon au rugby ou pas. Sinon, le 12
tu veux
juin...
Dire, tu veux dire que James Cook est le précurseur de Google Earth.
Ouais.
C'est ça que tu essaies de nous dire.
Ouais.
Oui, parce que j'ai trouvé une vieille rediffusion, enfin une rediffusion du Grand Prix avec la première partie qui est sur la chaîne belge. J'ai rêvé, quoi. L'accent anglais de ces gens-là est incroyable.
D'ailleurs, son deuxième prénom, c'était Google. C'est James Google. Sinon, le 12 juin 1790, Avignon rejoint la France après 5 siècles d'administration pontificale.
Jean, allez-y.
Tu veux dire que Jean, allez-y, aurait pu gagner une victoire en Grand Prix pour le compte du Vatican?
Oui.
Exactement. Le 12 juin 1817, Karl Drais parcourt plus de 14 km en une heure. Alors, il ne pleuvait pas ce jour-là, hein, pour expliquer cette moyenne. Non, il venait tout simplement d'inventer la draisienne. Et la draisienne, c'est l'ancêtre du...
Du vélo.
Du vélo, exactement.
Hein ? Mais il était docteur ?
Bien sûr.
Voilà.
Que de progrès quand même en près de 2 siècles, hein, puisqu'aujourd'hui, Contador fait à peu près 90 km en 30 minutes.
Oui, c'est vrai.
On le sait, hein, il mange de la viande.
Oui, il mange de la viande plastifiée.
Le 12 juin 1942... Une petite fille fête son 13e anniversaire et pour ce 13e anniversaire, on lui offre un journal. C'est Anne Frank. Exactement. Donc elle est aussi née donc 13 ans plus tôt, un 12 juin. Sinon, le 12 juin 1964, Nelson Mandela a été condamné à la prison à vie et il ne sera libéré que le 11 février 1990, donc 26 ans plus tard. Sinon, qui est né un 12 juin? Et attention.
C'est pas moi.
Ce n'est pas toi. Ce n'est pas Fab.
Non.
Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Christophe Malbranck. Ah. Ce n'est pas Jean-Louis Moncey.
Jacques Lafitte.
Ce n'est pas Jacques Lafitte.
Margot Lafitte.
Ce n'est pas Margot Lafitte.
Bourdet, Montagny.
Si je vous dis Yakeke, Yakeke. Je vous dis Koh-Lanta.
Ah. Yakeke.
Mais oui, il fait la musique.
Oui, mais non.
Ouh, il y a quelqu'un. Je suis perdu, aidez-moi.
C'était la naissance de Monsieur Koh-Lanta, celui qui n'interviewe que les personnes qui parlent français sur la grille. Monsieur Denis Brognard. C'est bon, tu t'es calmé? Sinon, parmi les journées que sont le 12 juin, le 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants.
Je pense à ce gamin, tu vois, qui est en 1982, 1983, qui est un virage dans le circuit, qui fait « Papa, regarde, il y a quelqu'un Quand on pense qu'on n'arrête pas de se foutre de la gueule de Brognard en disant « Mais il a rien à faire en Formule 1 !» Mais en fait, non, il y a Kéké, tout est écrit. Ce mec, il est taillé pour la F1.
Et sinon, aux États-Unis, c'est le Loving Day qui commémore un arrêt de la Cour suprême. Alors, c'est pas exactement ça, mais d'une certaine façon, il y a un rapport. Parce que ça commémore.
Il y a un rapport. C'est le jour de l'amour.
Mais non, ça commémore un arrêt de la Cour suprême des États-Unis.
Ah, attendez, c'est pour moi.
Dans l'affaire Loving contre l'État de Virginie, c'est pour ça que ça s'appelle le Loving Day. Et en fait, cet arrêt met fin aux 16 dernières lois interdisant le mariage interracial dans certains États. Donc, c'est quand même une question d'amour, on pourrait dire. Mais en fait, non, c'est parce que c'est un monsieur Loving ou une madame Loving qui a porté plainte contre l'État de Virginie. Mais
c'est quand même une histoire d'amour à la fin.
Bah oui. Et de racisme, d'antiracisme.
C'est une spéciale racisme aujourd'hui.
Et donc, en F1, j'aurais pu vous parler du Grand Prix de Belgique ou de plein de Grands Prix du Canada, mais j'ai envie de dire, la grande date du 12 juin, finalement, bah c'est le Grand Prix d'hier. Le 12 juin 2011.
Ça sent le truc novateur.
Oula.
Il va nous faire un
retour à le futur. Prix.
Il va nous faire le SAV dans le SAV.
Alors, en 2013.
Et donc, ce qu'on peut noter, c'est que le Grand Prix du Canada est donc devenu le Grand Prix le plus long, entre guillemets, entre son début et sa fin. Parce que Petton a gagné en 4h04.
Devant un tour qui dure 2h30 ou un truc dans le...
Oui, voilà. Mais paradoxalement, ça aurait pu être un des plus courts s'il n'était pas reparti. Parce que la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on repart, est-ce qu'on part pas. Savoir que s'il n'était pas reparti, dans ce cas-là, la course aurait duré 46 minutes. Et ça aurait été le troisième Grand Prix le plus court. Et donc cette semaine, d'après toi, Dino, de quoi on va parler?
Des Grands Prix les plus courts et les plus longs.
Alors, on va parler que des plus courts cette semaine.
On n'a pas déjà fait ça. Le mec qui fout toute une rubrique en l'air.
C'est clair. À demain pour la deuxième partie.
Mais j'admire ton cheminement. Comme c'est le Grand Prix le plus long,
l'un des plus longs, mais qui aurait pu être un des plus courts.
On va parler des plus courts.
Mais ça aurait pu être un des plus courts. Oui.
La science du contre-pied.
Voilà.
T'en arches.
Et donc, d'après vous, quel a été le Grand Prix le plus court en temps?
Australie 91.
91, ouais.
Jolie Australie 91.
Je savais bien qu'on l'avait déjà fait, celle-là.
Non, parce qu'on en a déjà parlé, mais...
Oui, bien entendu.
Voilà. Australie 91, 24 minutes, 34 secondes. Normal. Donc, c'était Adélaïde. Il a été interrompu au bout de 14 tours, au lieu de 81.
Ouais, c'est ça.
D'après vous, pourquoi on l'a arrêté?
Mais c'était pas la pluie, non.
C'était la pluie, en effet. Pas forcément d'accident. Grosse pluie. Et donc, on avait décidé d'arrêter. Quel est, d'après vous, le deuxième? Là, je veux vous dire, au moins l'année, c'était en 1975.
Espagne, non?
Ah oui.
Pas mal. Espagne, ouais. 60...
J'ai fait l'avant-goût du Grand Prix d'Espagne il y a 15 jours.
Ah, mais oui.
Il avait duré seulement 42 minutes 53. Et alors, par contre, est-ce que tu te souviens pourquoi, malheureusement, ça s'était arrêté?
Il a été coupé parce qu'en fait, c'est un Grand Prix absolument extraordinaire dans son déroulement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a protestation politique, il y a tout. Et en fait, il a été interrompu parce qu'il y a eu un accident de Stommelen, est sorti de la piste. Enfin, il a tapé un mur, il a rebondi de l'autre côté du mur. Lui, il a survécu, mais il y a, je crois, c'est 5 ou 6 personnes en public qui sont mortes.
Donc, la course devait durer 75 tours. Elle en a fait que 29. Donc, c'est pour ça que je disais que ce Grand Prix du Canada, si c'était interrompu au drapeau rouge avec 46 minutes, il aurait été là. En troisième, quel est le troisième? Donc avec 55 minutes 30. Celui-là, il est facile normalement.
La Malaisie, non?
Exactement, Malaisie 2009. Donc là, pareil, hein, c'était pour cause de pluie. 31 tours au lieu de 56.
Ça va.
Ouais. En quatrième place, on trouve un autre Grand Prix qui a eu lieu en 75.
Monaco?
Non, pas Monaco.
Nürburgring?
Pas Nürburgring.
Spa?
Pas Spa.
Silverstone?
Pas Silverstone.
Grand Prix de France?
Imola.
Pas Imola, mais on n'y va plus.
Grand Prix de France?
pas la France.
Zeltweg.
C'est alors j'ai Österreichring. Oui bah c'est Zeltweg. Ouais.
C'est l'Autriche quoi.
Voilà, c'est l'Autriche. Donc qui a duré 29 tours au lieu des 54. Et là encore, ça a été stoppé à cause de la pluie, avec une victoire
de Brambilla, non?
De Brambilla, ouais. Première et unique victoire.
C'est vrai que c'est bizarre parce que ça s'est jamais arrêté à cause du soleil. T'imagines quand même la FIA qui dit non les gars, aujourd'hui on court pas, il fait trop beau.
Il fait trop beau.
Aujourd'hui il y a
on attend les nuages.
Il y a pas un nuage, aujourd'hui on part pas. C'est trop sûr.
En cinquième place, on arrive en 1984. Et là on dépasse l'heure de 1h01 et 7 secondes.
C'est à Monaco ça.
Exactement, Monaco 84. Je me demande, c'est pas celui-là où Jackie c'était justement commissaire et
Le fameux voilà, où Senna termine deuxième, où il y a je sais plus qui est troisième, c'est Boutsen ou un truc dans le genre qui est troisième.
C'est Arsen.
Ah peut-être Beloff.
Ah Beloff, voilà, c'est Beloff qui était troisième.
31 tours donc au lieu des 77 et c'était le premier meilleur tour et le premier podium pour Senna. Ensuite on remonte en 78.
Année érotique.
Non, j'ai pas dit 69, j'ai dit 70.
Oui, ben chez moi, c'est 70.
Oui, mais c'était plus long.
Alors, Italie 78, c'était.
Ah bah
et qui a fini premier?
Andretti.
Alors, Andretti et Villeneuve ont fini premier et deuxième.
Ouais, mais ils ont été
déclassés de 1 minute. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, 1 minute de pénalité?
Ah non, non, nous on a inventé les 5 secondes.
La course était prévue sur 52 tours. Elle a été interrompue. C'était un gros carambolage au 40e tour. Un gros accident dont sera victime Ronnie Peterson, qui malheureusement décédera le lendemain. Et finalement, comme ils ont été déclassés, c'est Niki Lauda qui a remporté la course. Sinon, on arrive en 2001 pour la 7e place, en 1h08.
Ah, mais c'est pas Monza, par exemple?
Ce n'est pas Monza.
Parce que ça roulait vite. Elle est...
Imola? Pas aussi vite que ça, quand même, 1 heure.
Non, mais attends, on sait jamais.
1 heure? Attends, 300 km/h. Les voitures en moyenne à Monza, quand même. Ah, quoi que c'est possible.
Laisse-moi rêver.
La Hongrie, Monaco, Silverstone,
non.
Allemagne.
On ne fait pas tout, mec. Incroyable.
La Belgique! La Tchécoslovaquie. Ah non, ça
c'est pas. La Belgique.
Ah oui, il y avait eu des accidents, oui.
Ah bah, il y avait
Burti, Irvine.
Voilà, Burti, ouais, gros encastrement dans des pneus.
Ouais,
et donc, ça a été stoppé après 5 tours. Ah, et oui. Finalement, ils ont fait que 36 tours au final.
Ce qui est pas mal à Spa.
Disons, oui, c'est quand même 250 bornes à Spa.
Et tout ça en 1 heure?
En 1h08.
La vache.
Mais attention, on ne comptait que le temps de drapeau vert. C'est ça la différence. C'est depuis en fait, les cas comme on a eu hier.
Bah, c'est depuis la Malaisie.
Voilà, de se multiplier, entre guillemets, puisque maintenant le temps en drapeau rouge ne compte plus. Avant, on comptait deux heures globales, alors que maintenant, faut différencier entre quelque sorte le temps de course globale et le temps sous drapeau vert, on va dire.
Mais tu crois vraiment qu'un cas comme hier, ils auraient compté le temps sous drapeau rouge comme faisant partie de la course?
Ah, ils ont fait, hein. Quand tu regardes les classements officiels F1, il a...
Au Canada, il a gagné en 4h04 à une moyenne de 75 km/h. Il s'est super traîné quand même hier.
Ah ouais,
75 km/h.
Quand même.
Alors après, au-delà de la 7e place, en fait, on va tomber de la 8e à la 15e place des Grands Prix d'Italie. Donc entre 1h14 et 1h16.
Ah, c'était pas bon, Fab.
Mais en fait, qui n'ont rien de particulier. C'est juste que le Grand Prix d'Italie est un Grand Prix super rapide.
Et oui.
Voilà. Après, on va arriver à la 16e place en 1981, en 1h16, justement.
81.
C'est un pays qu'on a déjà cité.
Alors là, je vois pas.
Mola.
C'est le Grand Prix de Belgique.
Ah, bah là.
Mais cette fois-ci à Zolder. La course devait durer 70 tours. Elle n'en a duré que 54. En fait, la course a été interrompue après un tour suite à un accident entre Patrese et Stor. Un accident d'ailleurs assez particulier, parce qu'en fait, c'est Patrese qui cale. Là, apparemment, lui avait levé les bras, tu sais, pour qu'on interrompe...
Ouais, parce qu'il arrive souvent, ça.
Départ, voilà. Sauf qu'ils l'ont pas fait. Il y a un mécano de chez Arrows qui arrive sur la voiture de Patrese.
Ah oui.
Sauf qu'il y a Stor, lui, qui part et qui va percuter à la fois la voiture de Patrese et le mécano. Et Stor, il va vraiment croire qu'il a tué le mécano.
Oui, c'est impressionnant, ouais, très impressionnant.
Ah, très très impressionnant. Et d'ailleurs, enfin, je crois qu'après, il a arrêté, quoi, parce que ça l'a tellement traumatisé. La course sera relancée, mais elle sera interrompue, là encore, à cause de la pluie au bout de 54.
Bah, d'ailleurs, ce week-end, on a été pas loin d'avoir le cas d'un commissaire qui se fasse faucher.
Ah oui?
Ah, bah oui, là. Alors après, de la 17e à la 22e place, là encore, on retrouve des Grands Prix d'Italie. À la 23e place, on arrive à un Grand Prix en 1997.
Monaco?
Pas Monaco. Je peux vous dire que la course était prévue en 69 tours et qu'elle s'est interrompue au bout de 54. Et il faisait très beau.
Canada?
C'est le Canada. C'est à cause d'un accident, et vous vous souvenez de quel accident?
Ah, bah de Panis.
Très violent accident d'Olivier Panis. Et ensuite, donc, là encore, du 24e à la 29e place, on trouve encore des Grands Prix d'Italie. Et on va finir sur la 30e place en 1h18, et c'était en 1985.
Monaco?
C'est pas Monaco.
Portugal?
C'est pas Portugal, c'est victoire de Prost devant Alboreto et Jacques Lafitte.
Italie? Allemagne? Luxembourg?
Thaïlande?
Plus simple, j'ai envie de dire.
France?
France?
Un peu moins simple, mais pas pareil.
Un peu moins simple. Italie?
Non.
États-Unis?
Non.
Grande-Bretagne?
C'est la Grande-Bretagne.
Ouais. Alors, du premier coup, t'as la vu course... Fab, hein?
Facile.
La course était prévue sur 66 tours et ils l'ont terminée au bout de 65 parce qu'ils se sont trompés.
Ah oui.
Bon, c'est-à-dire que la course aurait pas duré non plus. Voilà, elle aurait duré voilà, 1:20 de plus. Mais voilà, apparemment, ils ont brandi le drapeau à Dami un tour trop tôt.
Et c'est qui avait gagné?
C'était Alain Prost.
Oui, c'était arrivé déjà ça. C'était... Ouais, ouais. Mais il y a plus longtemps, je crois, que Fangio qui avait abaissé le drapeau un tour trop tôt.
Oui.
Je sais plus sur quel Grand Prix, mais c'était bien avant.
Donc voilà, c'était un petit panorama des Grands Prix les plus courts. Avec noté quand même sur les 30 premières places, t'as quand même 20 Grands Prix d'Italie.
Ça va.
Dont des Grands Prix très récents. Hein. Le Grand Prix d'Italie 2010, par exemple, c'est le 15e en 1h16.
Ah ouais.
Alors, on rigolait tout à l'heure. Hein.
Non, mais c'est tellement intense aussi, je pensais pas que c'était aussi rapide.
Je veux des excuses.
Je m'excuse.
Voilà.
Alors, Dino, on va passer à l'actu.
Ouais, non.
Ah non, t'as pas envie.
Non, merde.
Alors, la question c'est, y a-t-il des actus sur Ferrari, sur Nicole Scherzinger?
Non, il y a des trucs, il y a que des trucs intéressants. Tellement intéressants que j'en ai pris 5.
Waouh!
J'en ai pris 5 parce qu'il y en a une qu'on en a déjà parlé, donc on va pas non plus s'attarder dessus. Enfin, on en a déjà parlé. On a déjà eu multes occasions d'en parler et on aura sans doute l'occasion d'en reparler plus tard. Voilà. Et la 5e, c'est une petite actu, assez sensationnelle qui remonte au week-end dernier, puisque le titre de l'article c'était Buemi percute un commissaire en démonstration.
Ah oui.
Avec cette question fondamentale, était-ce un commissaire ou un fan?
Oui.
Parce qu'on a eu les deux versions.
Moi, j'ai du mal à croire un commissaire en t-shirt. Hein.
Bah, mais c'est un roadshow.
Ouais.
En plus, c'est au Japon, ils ont plus grand-chose.
On confond roadshow et rodéo hein, au Japon, apparemment. Non, mais attends, c'est vrai que j'ai revu la vidéo il y a pas longtemps. Le mec, oui, il attend la voiture quand même.
Il
c'est saute. C'est pas genre, oh, tiens, j'étais là, machin. Non, non, c'est le mec, il regarde, hop, il passe, et bon, c'est bizarre.
Mais non, mais en fait, il a entendu un gros bruit, vroom, 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 il s'est dit, ah, Fukushima, ça pète, vite.
Non, pas encore.
On sait pas qu'une Toro Rosso pouvait être aussi dangereuse quand même. Hein.
C'est pas une Toro Rosso, c'est une Red Bull.
Ah, c'était une Red Bull.
C'est une Red Bull. Ah. Bah, t'imagines, Red Bull allait faire des démonstrations avec Toro Rosso.
Ah, ça pouvait être une démonstration de Toro Rosso.
Ah, non, c'est une démonstration Red Bull.
Elle donne pas tellement d'ailes.
Quoique, non, c'est faux, elle donne des ailes. Parce que quand même, le mec, il a de super bons réflexes.
Ouais.
Ouais, enfin.
Ou alors, comme tu dis, si jamais c'était préparé, il avait déjà quand même prévu son coup.
Ça se trouve, le gars travaille pour Ferrari, c'est la seule solution qu'il a trouvée pour essayer de prendre des photos de la Red Bull. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il a pris la caméra, là, surtout.
Parce que d'ailleurs, ce qui était très drôle cette semaine, c'est que, on a vu pendant l'interruption de course, à un moment donné, Peter Sauber se balader sur la grille, et il arrive gentiment à côté de la Red
Bull. Oui.
Puis il regarde la roue arrière, où il n'y avait plus la roue, il y avait le moyeu et tout, et il regarde, et là, discrètement, parce que quand même, c'est Peter Sauber, discrètement, t'as l'ingénieur, qui se décale un petit peu, qui prend, le truc pour chauffer les roues, et qui met dessus, genre, l'air de rien. Parce que ça aurait été n'importe qui, il aurait fait vite, il aurait dit dégage. Là, c'est Peter Sauber, sympa.
Mais les formes. Non, oui, qu'as-tu d'autre comme actu?
Alors, comme quatrième actu, alors tu me demandais s'il y avait une actu sur Ferrari, et ben il y en a une, puisque c'est l'article sur la restructuration technique qui continue chez Ferrari, puisqu'on a déjà parlé de Aldo Costa qui s'en est allé, enfin, qui a été transféré quelque part. Au loin.
Lui aussi, on lui a dit gentiment de « casse-toi
!» Mais donc voilà, alors il y a plusieurs noms qui circulent à Maranello, et le point commun de tous les noms qui circulent, c'est que c'est des anciens de chez McLaren, enfin souvent des anciens de chez McLaren, et des anciens collaborateurs de Pat Fry. Donc ça confirme que l'homme fort en ce moment chez Maranello, c'est Pat Fry, puisqu'on murmure les noms de John Hilley, qui est le plus emblématique, parce qu'il a été chez Ferrari, il est parti chez Ferrari parce qu'il était responsable de la F60.
Il est parti.
Ah.
Il est allé chez... Oui. C'est qu'on va accueillir un mec comme le sauveur, il a quand même fait la F60 avant. Hein. Le mec, il s'est quand même barré pour la F60. Il est parti chez McLaren, mais apparemment, il serait pas content de son statut chez McLaren, donc il reviendrait chez Ferrari. C'est vrai que Ferrari, c'est mieux, parce que nous, on a des pattes. Et la polonaise, elle est maison.
Puis Ferrari, c'est la perspective quand même de soirée bunga bunga.
Oui, c'est vrai.
Et ça, McLaren ne l'offre pas.
Oh là 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 là. Je quitte cette émission.
Lewis, il va piquer des bonbons au deuxième étage du motorhome McLaren. Il l'a montré à TF1. Vous voyez les super reportages qu'ils font?
Ouais.
TF1, ils sont toujours le coup, hein, quand il faut montrer un noir qui fait une connerie. Mais c'est vrai.
C'est vrai.
C'est pas... Hein,
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils diffusent des Grands Prix. C'est juste pour faire le lit du FN. Tu vois.
Oh, regardez Hamilton.
Regardez
Mandal.
Qui d'abord vole des voitures. Hein.
Il ne sait même pas les conduire.
Il vandalise des murs.
Oui, c'est vrai. Oui,
il a tagué un mur avec une roue.
On en était où?
À Johnny Depp.
D'accord.
Et Fab était parti pour nous faire plein de jeux de mots avec il est... Il est chauve.
Il est des nôtres. Non, j'arrête, c'est bon, j'arrête. C'est bon. J'arrête ces jeux de mots.
Non, vous voulez des remarques sur la restructuration de Ferrari?
Est-ce qu'ils vont aller plus loin? Après, ça va dépendre, je pense, du résultat cette saison. Peut-être que ça a le grand chambardement en 2012.
Peut-être, la fin du monde.
Ah bah, si Flavio, il vient chez Ferrari, ouais.
Oh non, 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 je dis non.
Voilà un vrai Italien.
Ne porte pas le signe indien. Je vous jure, si Flavio vient, je boude la scooter.
Oh, moi, rien que pour les lunettes rouges, je veux voir ça.
C'est vrai qu'il avait des lunettes assorties aux couleurs des voitures.
Ah bah oui.
Ah bah ça non,
moi, je veux voir Flavio reçu par Silvio, espèce d'excès de testostérone absolu.
Ah la vache.
C'est clair. À l'équivalent de 3 DSK. Hein.
Bon, passons à la suite.
Oui, j'ai dit passons à la suite avec donc ce troisième article que vous avez le plus suivi, qui concernait les diffuseurs soufflés. C'est un article, je crois, d'Antoine, qui disait qui sera le plus pénalisé par l'abolition, enfin l'interdiction des diffuseurs soufflés en deux étapes. D'abord, le principe des fameux gaz froids qui passent dans le moteur et qui ensuite sont projetés dans le diffuseur et qui donnent de la pluie compagnie. Tout ça, c'est à partir de Silverstone. Et l'année prochaine, dans la conception des voitures, il faudra même plus qu'il y ait de soufflage. Il faudra que les échappements se situent 330 mm avant l'axe des roues arrière.
Donc ils ont passé de 100% à 10%.
Voilà. Ouais. Ce qui peut poser d'énormes problèmes, ce qu'expliquait, je crois, Newey. Il expliquait qu'en fait, l'avantage, c'est comme on faisait passer de l'air frais, finalement, dans le moteur, en ouvrant les papillons, etc., ça permettait de refroidir le moteur. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, le moteur ne sera plus aussi bien refroidi, qui pourrait donc provoquer des casse moteurs chez certains constructeurs.
Bah, ce que dit Antoine, c'est que oui, les plus pénalisés, ça va être Red Bull et peut-être et Lotus Renault.
Oui.
Enfin, aussi, à cause du système d'échappement.
Pour moi, ce sera même peut-être plutôt plus Lotus Renault que Red Bull, oui. Parce qu'on sait que Red Bull a la capacité de réagir. Lotus Renault, même si c'est une très bonne équipe qui peut réagir, ils ont déjà plus Robert Kubica. En plus, ils perdent leur innovation technique de l'année.
Bah oui, voilà, c'est ça. Red Bull, voilà, s'ils enlèvent ça, bon, il y a tout le reste. Là, c'est quand même beaucoup plus intégré, plus important sur la Lotus Renault.
Ouais, puis c'était vraiment un pari. Ils avaient beaucoup communiqué sur ça. C'est vrai que ça va leur coûter cher.
Et donc, en deuxième position, les actus les plus lus, c'est une chronique. Alors, je crois que c'est une chronique d'Axel, la rubrique hors piste. Et c'est une chronique qui nous pose cette question. Mais où est Felipe?
Bah là, actuellement, il doit être chez lui.
Oui.
En transit.
Ouais.
Il a failli être dans le mur.
Il a failli être sur le podium.
Oui. Il a failli être dans Fernando.
En fait, il a failli, c'est ça le problème. Voilà. Il a failli.
Oh.
C'est la petite actu dont je disais que soit on va en reparler, soit on en a déjà parlé, mais bon.
Bah écoute, c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on se demande où il est. Et là, j'ai envie de dire hier.
Oui.
Voilà, pour une fois, voilà.
C'est quand même le seul pilote qui a trouvé que les pneus pluie étaient bien. Tous les autres, ils ont tout de suite voulu rentrer au stand parce que c'était le bordel. Ils préféraient tous les intermédiaires. Lui, non, c'est très bien, pneus pluie.
Oh, Vettel aussi. Hein. Vettel, lui, aimait bien les pneus pluie.
Mais l'a-t-il revendiqué, Vettel?
Ah non, non, non.
Ah.
Oh non, attends, il a fait la gueule. Le mauvais résultat qu'il a fait.
Ouais, c'est clair.
C'est ça qui est terrible, quand même. C'est qu'à chaque fois, quand il fait un mauvais résultat, il est deuxième et il a dominé la course quand même. Donc,
Et puis là, il a dû se faire détruire en top 10.
Et il a plus que 60 points d'avance sur son plus proche poursuivant.
Tu te rends compte, il risque d'être titré qu'en Belgique. Il pourrait être titré dès la Hongrie.
Ça m'énerve, ça. C'est nul.
Terrible, quoi. Non, oui, Massa.
Oui, revenons au sujet.
Massa.
Ah bah oui, tiens, Massa.
Tiens, justement, on parlait de Massa. Il est où?
Il est peut-être mieux qu'on ne le pensait, parce qu'on commençait vraiment à se dire que l'accident, finalement, ça allait peut-être... Enfin, voilà, il n'était plus aussi bien. Il y a eu l'an dernier l'Allemagne, et bah là, on voit que, bon, dans des circonstances particulières, malheureusement,
oui.
euh, il, il a encore des capacités à faire des bons trucs.
Ah, mais c'est vrai que lui, il a vraiment subi le contre-coup, parce que comme on disait, on en disait dans l'article, il a vraiment subi le contre-coup de cet accident, le contre-coup. C'est vrai que, de manière rétroactive, le contre-coup du titre de 2008, et puis bah, évidemment, le coup de massue de l'arrivée d'Alonso, je pense là, c'est rien que ça, les trois choses ont suffi à lui enlever sa grinta. Et puis en plus, il subit, c'est vrai que c'est pas de bol pour tous ses pilotes, Hamilton aussi, il l'a eu. Massa, c'est qu'ils ont, été champions ou vice-champions au moment où la réglementation a changé radicalement, ce qui a placé les écuries de pointe derrière, quoi. Donc, c'est vrai que là aussi.
Mais je pense aussi que tout ça, c'est aussi une question de dynamique. Je pense que tout au début de sa carrière, il a commencé chez Sauber, où il a même été viré de chez Sauber une course parce que voilà, il cassait trop de carbone et compagnie. Et peu à peu, il a appris, etc. Et il est monté en puissance. Puis après, il y a plusieurs choses. Il y a son accident, il y a la mauvaise F60, il y a effectivement, il y a le changement de règle qui fait que la hiérarchie est bouleversée, où il perd sa dynamique. Et en perdant sa dynamique, bah, il faut qu'il recommence tout, et quand il recommence, il tombe sur Fernando. Puis sans doute que dans la foulée, il commence à réfléchir à ce qu'il a fait en Formule 1, et quand il commence à réfléchir à ce que tu as fait en Formule 1, c'est plus vraiment bon. C'est l'ordre de la psychologie.
Et alors, sinon, quelle est la première actu?
Encore une fois, c'est une actu qui parle de Ferrari. Puisque ce sont... Mais ça ne parle pas que de Ferrari. Tu vas être à moitié content, Fab, puisque ça ne parle pas de McLaren, mais ça parle aussi de Mercedes. Puisqu'il s'agit de Ferrari et de Mercedes, qui pensent déjà à 2012, et même mieux, puisqu'il semblerait que Ferrari ne pense plus à 2012, mais déjà à 2013. C'est-à-dire que Ferrari pourrait arrêter sa voiture 2011 pour préparer celle de 2013.
Waouh.
Tu vas avoir une bonne saison 2012, toi.
Ouais. Ah non, mais moi non, ça y est, moi, je suis pour Vettel, moi. Bon. Est-ce trop tôt?
Mais attends, on sait même pas. On n'est même pas sûr de ce qu'il va y avoir pour 2013.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, les deux pensent à 2012. Après, c'est vrai qu'il y a déjà des ressorts qui disent que chez Ferrari, on commencerait aussi à penser déjà à 2013. Vu que c'est un domaine où...
Je pense qu'ils sont pas les seuls. Hein.
Oui, de toute façon, faut pas se mentir, va falloir commencer à penser à 2012. Hein,
Bah oui, non mais voilà.
Non, mais même à 2013, parce que le changement de réglementation prévu.
C'est ça qui est terrible, c'est que je pense malheureusement que 2012 sera pas forcément une année révolutionnaire dans la hiérarchie des écuries, que certaines écuries vont peut-être mettre un peu moins d'intelligence sur la saison 2012 et se concentrer sur la saison 2013, puisque mine de rien, c'est vrai que c'est dans un an, ils vont mettre les premiers plans de la voiture 2013, et pour le moment, ils savent toujours pas avec quel moteur là, ils vont rouler, quelle sera exactement la réglementation technique. Pour moi, tout ça n'est pas encore pleinement décidé.
Et tout l'intérêt de Ferrari, c'est de faire traîner le truc. Plus ils font traîner le truc, plus ils seront obligés justement de prolonger pour laisser le temps, parce que c'est question d'équivalence. Chose à rajouter?
Bah non.
Non.
Il n'y a même pas eu de truc sur Bahreïn, par exemple.
Non, même pas.
C'est dingue.
Ouais.
Et il n'y a aucun de mes articles.
C'est bizarre, hein.
C'est bizarre. Ouais, pourtant, ils sont super bien, mes articles.
Bon, bah, donc c'est tout pour les actus.
Alors, messieurs.
Bah, je veux bien commencer.
Vas-y.
C'est une petite citation de quelqu'un que moi j'aime bien quand il fait des citations parce que c'est toujours un peu drôle. Donc, non, ce n'est pas Niki Lauda. Mais ça pourrait être son fils légitime dans l'art de la citation, puisque c'est Sébastien Vettel qui a déclaré ce week-end « Nowitzki ne pourrait même pas rentrer dans la voiture, alors ça me fera un opposant de moins ». Et en fait, il réagissait dans les colonnes du Bild du dimanche. Il réagissait au fait que en ce moment, Mark Webber est en discussion avec Red Bull, hein. Et Christian Horner a dit « Ouais, non, Marc, il va rester, etc. » Puis qu'il y en a un qui a un petit peu freiné des cas de fer en disant « Ce n'est pas fait encore, il n'y a rien qui presse. » Même si j'ai pas étudié d'autres options. Et donc, bien évidemment, on a demandé à Sébastien Vettel de décrire qui serait son coéquipier idéal. Et pour un peu détourner la question, il a répondu « Nowitzki, qui est l'un des joueurs des Dallas Mavericks. » Qui sont d'ailleurs champions NBA,
champions.
Ils ont remporté la finale cette nuit, et qui est effectivement un joueur qui fait 2m06, je crois, ou un truc dans le genre, qui a une tête, bon, il me fait peur. Chabal à côté, il a l'air gentil. C'est vrai qu'on dirait Vettel, mais deux fois plus grand, et elle a testostérone. Enfin, elle a, comment ça s'appelle? Merde. Au clan Buterol, voilà. Il a mangé du steak espagnol, c'est ça? Et voilà, donc c'est vrai que bien évidemment, il va pas rentrer dans une Formule 1, ce garçon. Mais Il a quand même pas écarté Sébastien, puisque c'est quand même la... finalement c'est très drôle, c'est que finalement quand même l'actualité que je retiens le plus, c'est pas trop le fait que Weber va peut-être rester un an de plus chez Red Bull, c'est surtout le fait que Sébastien a dit que il voyait rien qui s'opposait au fait que Lewis Hamilton soit son coéquipier, donc ça on se doute que c'est Red Bull ou Fernando Alonso. Là on se doute que le renouvellement jusqu'en 2016, c'est sans doute pas chez Red Bull que ce sera comme coéquipier. Et d'ailleurs, on a appris aussi dans la journée qu'il y avait eu une discussion entre 20 minutes et une demi-heure chez Red Bull avec Lewis Hamilton.
Ah.
Et dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser que ça sera en fait pour faire un petit peu le point sur 2012 et envisager la possibilité de 2013.
D'où la rumeur aussi, pré-contrat. Et tout.
Donc voilà, c'était ma petite citation made in Vettel.
Allez,
vous, messieurs.
J'ai lancé la mienne. Alors, cet après-midi, je me suis fait peur et j'avais toujours dit que si je ne me sentais plus capable ou si je devenais un obstacle pour les autres, je me retirerais. Et cette phrase, elle a été dite par Stirling Moss, qui a pris sa retraite de coureur, puisque il continuait à courir dans des courses historiques à 81 ans, et il a décidé de raccrocher, puisque comme il dit, voilà, il était en Le Mans Legends. Pendant la séance de qualification, il s'est fait peur, et donc, voilà, à partir du moment où tu commences à te faire peur, à réfléchir...
Il a démarré la voiture. Ah, j'ai peur, les mecs, c'est normal, j'ai juste allumé le moteur. Arrête, Sterling.
C'est une Lada.
Sauf que lui, il le fait à 81 ans, quand même. Hein.
Ouais.
Voilà. Alors, Fab.
Alors, moi, c'est plusieurs citations.
Ah, oh bah non
de deux... Ah, bah si, parce que non, mais c'est un tout, c'est un lot, quoi. C'est plusieurs citations de Vittorio Liuzzi et de Narain Cartier.
Ah.
Parce que j'ai fait la traduction de leur déclaration et j'ai quand même beaucoup, j'ai beaucoup aimé, c'est très frais, écoutez bien.
J'ai constaté qu'il pleut dans le tour, dans alors, le virage 1 et virage 2.
Non, oui, alors, c'est ça, mais beaucoup plus frais, beaucoup plus naïf, en fait. Liuzzi, il dit, c'est un grand sentiment de dépasser d'autres voitures. Liuzzi aussi, il dit, c'est toujours un grand sentiment quand vous roulez proprement. Voilà. Et enfin, comment ça se qu'il dit? Voilà. À part ça, ça c'est cartiquéant, à part ça, ce fut une course agréable, j'ai doublé quelques voitures. Moi je trouve que le package est magnifique.
Non mais t'imagines si c'était un Alonso, un Lewis Hamilton qui disait ça.
Ah non mais c'est...
Oh ouais, oh, j'aime bien dépasser, c'est cool.
Mais Vettel pourrait le dire.
Oui, un grand sentiment de faire une erreur.
Je remercie toute mon équipe qui m'a foiré ma course. Ça m'a changé.
Sur ce, on va passer à la course.
Oh, parce qu'il y a vraiment besoin d'en parler, il n'y a pas grand chose à dire.
Tout le monde l'a vu, cette course. Hein,
avec... en plus, il n'est que de la safety car. Ah oui, c'est ça, on va faire un montage pour ceux qui avaient TF1 seulement et ceux qui avaient Eurosport. Donc, ceux qui avaient TF1, on vous souhaite une bonne journée.
Au revoir.
On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le SAV du Grand Prix d'Europe qui, lui,
et maintenant, Taxi 2.
Pour le Grand Prix d'Europe qui, heureusement, lui, sera diffusé. On sait que vous vous réjouissez déjà d'avance. Hein. Voilà. Et pour les autres, ceux qui ont Eurosport, vous pouvez rester avec eux. Voilà. Donc, on dit au revoir à tous ceux qui n'ont que TF1. Au revoir.
C'est la preuve que la nature fait mal les choses, tu vois. Ne pas nous offrir entièrement le Canada et
nous offrir Claire Chazal, tu veux dire.
Non, nous offrir le Grand Prix d'Europe. Enfin, voilà.
Oh non, ça a eu les biens, le Grand Prix d'Europe.
Ouais.
Ah, cette année,
c'est vrai qu'il fait beau.
Cette année, il va y avoir de la tôle. Ah bah ouais, avec les deux zones et tout, là ça va être bon.
Ah puis on sait jamais, hein, s'il y a une voiture qui de nouveau s'envole, avec le DRS et tout, et le KERS, wow, double looping cette année.
C'est parce que là, maintenant, j'ai que 6 raisons, là.
Ah oui, là, t'as plus que 6 raisons.
J'avais Weber va tenter un double looping.
Ah bah non, mais bon. De toute façon... Lui, son KERS marche pas, donc il va peut-être essayer d'avoir surtout une note de 10 à l'artistique, parce qu'il faut avouer quand même que sa réception était merdique.
Oui. Le juge slovaque n'avait pas aimé.
Enchaînons sur le Grand Prix du Canada et les qualifs avec un pilote au-delà des 107%. Même si, bon, il a pas eu de bol, il a subi le courroux du virage 4. Je me souviens bien, c'est le 4. Surtout le mur du virage 4. Hein, c'est le belge Jérôme D'Ambrosio qui a été quand même sauvé par les commissaires. Et la place du con, cette semaine, c'est encore une fois une Toro Rosso, c'est Rémé.
Ouais.
Rémé qui, si je me souviens bien, n'avait pas fait des qualifs et des essais extraordinaires. Et à noter quand même que Pedro de la Rosa, son comeback, son 28e comeback, hein, quand même, parce que...
On n'ose même plus dire son dernier Grand Prix, parce que...
Oui. Après quand même avoir été lourdé de chez Sauber, revenir comme ça chez Sauber...
Alors qu'il vient déjà de revenir chez McLaren.
Et d'ailleurs, au moins pour la journée du vendredi, il avait la tenue McLaren.
Ouais.
Oui.
Parce qu'ils n'avaient pas de tenue à sa taille.
Alors en plus, ça c'est du foutage de gueule, parce qu'on a même Peter Sauber qui a dit oui, c'est bien ce qu'il a fait, parce que il a su que à 13h qu'on avait besoin de lui, etc. Donc une heure avant les essais libres 2. Et t'as Pedro de la Rosa qui fait une interview dans le week-end qui dit oui, non mais chez McLaren, on m'avait dit que Sauber avait appelé cette semaine pour dire que si jamais il y avait besoin, si c'est disponible. Alors que tout le monde a fait croire que non, il a été appelé à la dernière minute, etc. Alors qu'en fait, non. Ils avaient tout préparé, ils avaient prévu une solution de secours. Voilà. Qu'ils s'appelaient ni Gutiérrez ni Hülkenberg.
Bah, Hülkenberg, ils ont dit, comme pour eux, Force India, c'est un concurrent direct.
Oui.
Donc c'est pas la peine. Et alors, par contre, pour Gutiérrez, ouais, là, les boules quand même. Il a dit que ça manquait de transparence. Bah, si, c'est transparent, ils t'ont pas choisi.
C'est même super transparent. Quoi.
Pour la 3, donc déjà bien resserré, les deux Red Bull, les deux Ferrari, les deux Mercedes, les deux McLaren, les deux Renault, on était entre top team. Et pour une fois, alors...
Attends, t'as dit les deux Ferrari ?
Oui.
Il y a deux Ferrari chez Ferrari.
Oui, il y a deux Ferrari chez Ferrari. Tu sais même que chez Renault, il y a deux Renault, et que chez Mercedes, il y a deux Mercedes, et que chez McLaren, il y a deux McLaren.
Oui, enfin, quand même, chez Ferrari, on en voit souvent qu'une.
Oui, bah, on a vu qu'une à la fin.
Oui, mais c'était pas la bonne.
Et déjà, ces qualifs, c'était un peu le foutoir, hein, puisque Mister Eleven, qui n'est plus Mister Eleven, bah, encore une fois... Il était plus à la 11e place, il était à la 8e place, notre Choumi. Et Mr. 5, eh ben c'est plus Mr. 5,
c'est
clairement.
Numéro 2.
C'est numéro 2. Avec un Vettel qui fait encore une fois la pole, mais pour une fois, il a dû aller la chercher.
Il a dû aller la chercher. Ouais, il a dû faire comme d'habitude, il est sorti du garage, il a fait un tour. Ah ouais, il s'est fait chier.
Il a fait deux
Il a fait deux
ans. Ouais. Il a recule quand même 2-3 dixièmes, je crois.
Ouais, un peu moins de 2 dixièmes à Alonso. Mais il en fout 4 à Weber, son propre coéquipier. Il fait que 4ème, puisque quand même, Ferrari 2 et 3, c'est quand même pas mal, un beau résultat de qualif.
Mais est-ce que Red Bull n'a pas fait un peu comme McLaren en moins extrême, parce que McLaren, ils ont vraiment, vraiment préparé pour la pluie, mais est-ce que Red Bull n'a pas fait des compromis pour avoir une voiture qui soit à la fois rapide en qualif, mais qui puisse aussi bien se comporter sur la pluie? Parce que quand on voit par exemple la course que fait Weber, on peut se poser la question. Non, bon bah non, d'accord, ok.
C'est inquiétant alors, parce que.
Oui, bah oui, je sais, je dis ça.
Arrête.
Ça me fait mal au cœur, moi aussi, mais bon.
Voilà. Non, mais donc, je crois Vettel, que c'est vraiment un spécialiste.
Sa 21e pole position, la 27e pour Red Bull, la 182e pour Renault, à une moyenne de 215,022 km/h. Chose à rajouter sur la qualif?
Non, bah peut-être le classement du petit championnat de la qualif.
Oui.
Hein, avec du mouvement. Puisque bon, nous avons toujours ceux qui ont 0 points, donc D'Ambrosio, Kartikeyan, Liuzzi, Glock, Barrichello, Trulli, Soutil, Kovalainen. Nous avons Perez, Kobayashi et Buemi qui sont 13e ex aequo. Di Resta avec 4 points qui est 12e. Donc Maldonado 6 points ex aequo avec Alguersuari. Heidfeld qui a 12 points et qui est donc 10e. Schumacher qui abandonne sa 11e place.
Ah
et oui, pour prendre la 9e place avec 19 points. Petrov qui est 8e avec 28 points, soit plus du double des points d'Heidfeld en qualif. Massa qui est 7e avec 46 points. Il est derrière Rosberg, 55 points. Alonso 82 points qui remonte sur Button 84 points. Lewis Hamilton est 3e, il perd une place avec 90 points. Weber 103 points est 3e et 2e, j'ai du mal. Et Vettel est donc l'imbattable presque, hein, parce qu'il a 168 points sur 175 points possibles en qualification.
Ouais. On passe à la course et au top 10. Alors Dino, peux-tu nous dire ceux qui ne sont pas dans le top 10?
Il y en a certains qui ne sont pas dans le top 10, quoi qu'il arrive, puisque vous leur avez donné des points, mais qui n'ont pas fait le Grand Prix. Sauf de la Rosa. Hein,
on ouais, bah, cette semaine, oui, il pouvait donner des points à de la Rosa.
Donc, il y en a un qui ne fait même pas partie du classement, c'est Kovalainen, qui n'a pas reçu le moindre point. Nous avons Glock, qui a marqué 1 point, Maldonado, 5 points, Sutil, 9 points, Trulli, 12, de la Rosa, 13 pour son retour, c'est bien. Nous avons 17e position ex aequo, Jérôme D'Ambrosio et Kartikeyan, 20 points, Liuzzi, 16e avec 24 points, Rosberg, 15e avec 32 points, Hamilton, 14e avec 38 points, 13e Buemi 45 points, 12e Alguersuari 58 points, et enfin, qui est le Mr. Eleven? Est-ce Schumacher? Est-ce que vous y croyez? Eh bien non, vous avez raison de ne pas y croire, puisque c'est Paul Di Resta qui a 63 points, et pour indice, le nombre de points du vainqueur, c'est 954 points. Mais nous ne vous dirons pas qui est ce vainqueur.
Au revoir.
Dans une heure et demie à peu près.
Nous leur avons donné des points, mais pas dans le top 10.
J'en ai
Dino, t'en as deux. T'as donné un point à D'Ambrosio.
Bah, il finit devant son coéquipier alors que il a quand même dû changer de châssis parce qu'il y avait les attaches du museau qui étaient cassées, puisque comme il a pris le mur de face, la partie avant était cassée, donc il a fallu changer de châssis. Et voilà, il arrive quand même à être devant son coéquipier malgré les circonstances et compagnie. Pour un débutant, c'est très bien. Voilà. En même temps, il est belge, donc la pluie, ça le connaît un peu. Non mais c'est vrai, non voilà, non mais honnêtement.
Alors ça vraiment, ouais. Je viens de Belgique, il y a la frite, ça va. Ouais.
Fab, tu as donné 2 points à Ludy.
Bah oui, ah oui.
C'est vrai que les HRT ont fait un bon résultat, elles sont même passées
voilà.
Devant Virgin.
Attends, les HRT, bon avant la pénalité de Cartier-Quillan, étaient toutes les deux devant les Lotus, devant les Virgin.
Ah ouais, ouais.
Donc voilà, je voulais marquer le coup, je récompense Ludzi qui est le premier pilote HRT.
Elles ont tenu toute la course dans un Grand Prix difficile. Non, voilà.
Et ils ont doublé des gens.
Ah oui, parce qu'ils ont découvert que c'était bien.
C'était super.
Et sinon, nous avons tous les trois donné des points à Di Resta, qui a fini 11e. Moi, je l'ai mis 9e. Fab, tu l'as mis 10e. Et toi, Dino, tu l'as même mis 7e.
Ah ouais, ouais. Attends, il fait une super course.
Très belle course.
Il fait une très belle course. Alors, c'est vrai que malheureusement, il y a eu des petits incidents. Enfin, maintenant, il faut s'y remettre dans le contexte.
Ce qui est un peu terrible, d'ailleurs, c'est que on avait tendance à ne voir les Force India que quand il y avait un souci.
Mais c'est ça, mais en
alors plus, que ouais.
On avait même l'impression que les commentateurs étaient énervés, genre, tu sais, c'est une écurie qui vient là, c'est un peu HRT, oh, faut les faire partir, ouais. Etc., parce qu'ils font des conneries. Ils font des erreurs, maintenant on est sous la pluie, c'est un circuit qui est pas non plus facile, c'est un circuit qui est exigeant. Di Resta n'est qu'un débutant, il a quand même marché quasiment tout le week-end sur son coéquipier, encore une fois.
Encore.
Pour Surtees, ça commence à devenir inquiétant, parce que les Grands Prix se suivent et Di Resta se met de plus en plus devant. Il est un petit peu jugé aussi pour l'ensemble de l'œuvre Force India, alors que sa course finalement était très bonne, il a été dans les points, il a fait partie de ceux avec Kobayashi qui n'ont pas changé de pneus avant le drapeau rouge, donc ils se sont retrouvés potentiellement dans les points si la course avait été arrêtée. Voilà, donc c'est dommage pour lui, c'est voir sa fin comme ça, c'était pas cool. Mais voilà, je voulais récompenser le pilote qui moi vraiment me fait beaucoup plaisir en ce moment.
Ouais ouais, tout à fait.
Bah se préparer hein, parce que même après son problème au 43e tour, il est que 21e et il finit, enfin ce qu'il finit, non il finit pas, mais au 67e tour il est 11e,
ouais.
sur même pas une moitié de Grand Prix. C'est quand même impressionnant, et puis il n'y a pas eu que des abandons, pour gagner 10 places sur à peu près, 25 tours, à peu près. Très très impressionnant.
J'ai vraiment été, enfin, c'est peut-être un des seuls abandons qui m'a vraiment embêté pour lui, quoi, parce que c'est vrai que, enfin, je trouve depuis le début de saison, il est déjà très bon, il prend le dessus sur Sutil, c'est pas forcément une mince affaire, même si Sutil cette année est quand même vraiment dans le, je sais pas ce qu'il est, il est dans le saut, en ce moment.
On va passer à la 10e place, avec 75 points. Nous ne lui avons pas donné de points, c'est Barrichello. Barrichello qui finit 9e de la course.
Donc on va pas en parler, hein, puisqu'on ne lui a pas donné de points.
Point, voilà. Il double son capital de points. Attends, il passe de 2 à 4.
Waouh.
Waouh. Enfin, moi, je l'ai pas vu, personnellement. Enfin, j'ai pas. Faut dire qu'on était concentré sur plein d'autres mondes.
Mais c'est surtout, j'ai l'impression que pendant la course, j'ai plus vu Maldonado devant que derrière. Alors, est-ce que je me suis trompé ou pas? Alors, Barrichello, il y a un dépassement de Barrichello. Sur qui vient un dépassement de Barrichello? Je crois que c'est sur Rosberg, dans la ligne droite. Voilà. Sinon, en dehors de ça.
Et c'est trompeur, parce que tu vois, je pensais vraiment pareil que toi. Je me disais, Maldonado était souvent devant Barrichello. Là, je suis sur Stat F1 et je vois que Barrichello, il est derrière Maldonado jusqu'au 17e tour. C'est-à-dire un peu avant l'interruption, et il ne repasse jamais derrière Maldonado.
Tu vois, c'est drôle.
C'est vraiment c'est là que tu vois le pouvoir des images, quand même. C'est vrai que Maldonado m'avait fait plus forte impression que Barrichello, qui n'a pas fait non plus une course transcendante, hein, faut pas déconner, mais.
Il marque un point.
Mais il marque un point. Enfin, 2 points, même.
2 points, ouais.
Pourquoi 2 points?
Non, mais oui.
Ah non, 2 points,
un point dans l'autre classement.
Voilà.
J'ai peur, je crois qu'il y avait des ex-echo.
Je passe à la 9e place dans ce cas.
À moins que t'aies un truc à dire sur Barrichello.
Non, moi, pardon, je l'ai pas l'impression de l'avoir vu, donc.
Je pars du principe que si toi t'as rien à rajouter.
Bah non, je sais pas. Fab, t'as quelque chose à rajouter?
Non.
Non, mais est-ce que toi t'as quelque chose à rajouter?
Moi?
Ouais.
Ah non, non.
Non, fais rien. Quand il t'invite à parler, c'est mauvais signe.
Mais non,
je passe à la 9e place.
Bien joué.
Hein, mais t'inquiète pas, il va beaucoup parler sur la 9e place. Puisque c'est quelqu'un qui n'a pas fini la course.
Oh non, non.
Il a fini au sommet.
Oh non, non.
Ah pour, oui, d'accord.
Pour reprendre ces petits mots qu'on a eu avant le début de la course, il a fini au sommet de son vibreur.
J'ai peur que ce soit Lewis, je me suis rappelé entre-temps qu'il était en dehors du classement.
Non. Il y a quand même, non, c'est vrai qu'il y a deux personnes qui ont fait ridiculement cette course, c'est Hamilton et Alonso qui est 9e. Alonso qui marque 113 points.
Alonso, il avait l'air con.
Ah oui.
Oui, la voiture qui était à l'équilibre sur le vibreur en plus.
Oui, mais impossible de repartir, quoi. Le seul moment, tu sais, il peut rien se passer.
Un homme affaibli comme ça, je trouve ça pitoyable, messieurs. Vous êtes pitoyable.
Moins optimiste.
Une victime de Button. Ah oui, les deux ont été victimes de Button en plus.
Ah ouais, le serial killer.
Il avait le pouvoir du ridicule.
Oui, il a foutu la honte à tout le monde.
il a foutu la honte à Hamilton, il a foutu la honte à Alonso. Même sûr qu'il aurait pu ridiculiser la safety car, tellement il était fort hier.
Ouais.
Personne peut ridiculiser Bert Mélander.
Ouais, c'est vrai.
31 tours en tête. Mais...
Ouais, il aurait été en NASCAR, il aurait eu un point bonus hein, pour emmener le deux tours.
Ah non, c'est Vettel.
Oui, c'est vrai. Donc Alonso, jusqu'à, on va dire, ce yo-yo, ce, je sais pas, ce bilboquet, c'était drôle. Il était à un équilibre.
Cette balance.
Voilà. C'est le mot que je cherche, cette balance, voilà. Alors, on a eu un truc presque étonnant.
Tu recherches des mots vachement compliqués.
Balançoire. Mais d'accord, quand on voit une formule, on pense pas à une balançoire.
Oui, bah, enfin, toi, tu penses à un bilboquet, quand même.
Voilà.
Tu te rends compte.
Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Tout à fait. Oui, il a ralenti Massa au début de course.
Ouais.
Oui.
Et ça
ouais, réalise. Ça...
C'est le genre de truc qui te fout la honte. Être plus lent que Massa. Ah, je vais me fâcher avec plein de gens.
Ouais.
Non, bah, il y a énormément de potentiel qu'on n'a pas vu pendant la course parce que, bah voilà. Alors eux, ils disent une succession d'événements. Je sais pas.
Une succession d'événements qui s'appelle Button, c'est ça?
Ouais, peut-être. Mais Button, il y est pour rien. Enfin, moi, j'ai même plutôt tendance à dire que c'est plus Fernando, même si c'est un incident de course. Mais c'est vrai que si jamais il devait y avoir des torts, ça serait peut-être 55% Fernando, 45% Button. Button, il est à l'intérieur, la trajectoire idéale. Comme ils le disent pendant le direct, quitte à passer par l'extérieur, autant qu'il le fasse clairement. Il sait le faire clairement, donner un volant pour faire prendre à Button qu'il va passer. Là, c'est vrai que c'était un peu timide. Maintenant, c'est sous la pluie, donc ça se comprend.
Mmh.
On peut pas briller à chaque Grand Prix. C'est dommage, c'est qu'il perd des gros points.
Ah bah oui, c'est
voilà,
clair.
C'est sûr que
quelque chose à rajouter sur la course d'Alonso?
Bon, de toute façon, elle était jouée malheureusement, enfin, dès le départ.
Ouais.
Malheureusement, je pense qu'il, de toute façon, enfin, faut pas se leurrer, les Red Bull, la Red Bull de Vettel a un avantage certain, de toute façon, dans à peu près toutes les conditions, hein. Là, c'est vrai qu'on s'est quand même étonné tous de voir Button revenir comme un avion sur la Red Bull, mais faut quand même dire, ouais, que le fait que le départ ait pas été arrêté avec l'impossibilité d'utiliser le Kers, enfin, c'est déjà, c'est un coup de poignard.
On y reviendra, mais quand on regarde honnêtement, depuis le début de l'année, Vettel gagne 5 courses et il y en a 2 qui laissent filer. Mais sinon, en dehors de ça, en conditions régulières, ça reste quand même le mec qui mène le plus de tours, qui fait la pole quasiment à chaque fois.
De toute façon, l'année dernière, c'était pareil aussi. Hein. Il était largement devant sur les courses au début. Il était largement devant. Il a fallu des incidents mécaniques pour que le championnat ait qu'il y ait du suspense. Pardon. Donc, voilà.
Okay, oui.
C'est pas nouveau. Voilà. Maintenant, c'est cette année le problème pour le suspense, c'est qu'il n'y a que Vettel qui peut se planter tout seul. Quoi.
Ouais.
Bah ouais.
Et encore, quand il se plante ou quand il y a une mauvaise stratégie, il finit deuxième.
Voilà,
deuxième.
Donc, pas tout, voilà.
Dans ce cas-là, on va passer à la 8e place. Un pilote Renault et celui qui n'a pas fini. C'est donc Nick Heidfeld.
Ouais, bah, enfin. Lui, dans le genre, j'ai doublé personne quand même.
Ah, mais c'est surtout, quand je pense aux mecs quand même qui sont allés dehors, Diresta, même à la limite, certains qui auraient mérité des points comme les HRT, pour Matt Heidfeld, il a dépassé son coéquipier peut-être à un moment donné.
Il a voulu dépasser Kobayashi, mais il a pas compris qu'il fallait se décaler et pas rentrer dedans.
Bah, Kobayashi, on voit bien en fait sur la vidéo que quand il arrive dans le virage, il perd un peu la voiture et il y a les deux roues avant et arrière gauche qui vont sur la partie mouillée. Donc à ce moment-là, il y a un défaut d'adhérence, donc ce qui fait, je pense qu'il ralentit ou il donne un petit coup de frein pour pouvoir se remettre sur la trajectoire complètement propre. Donc voilà, derrière, malheureusement, Heidfeld peut pas anticiper.
Avec Lafitte qui conseille à Heidfeld de se prendre le muret.
Oui.
C'est vrai que c'est mieux pour ralentir.
Alors qu'il ne pouvait plus contrôler sa voiture.
Oui. Ça, Hamilton aurait su faire.
Ouais.
Il préfère Piquet
aussi, d'ailleurs.
Piquet, lui, il savait très bien faire.
Ouais. Quelque chose à rajouter sur Heidfeld? À part qu'il a magnifiquement, justement, bien évité le petit muret.
Non, mais personne ne l'a mis, nous?
Non.
Ah bah d'accord, on peut passer au suivant alors.
C'est clair.
Eh ben on va passer à l'autre. L'autre pilote Renault, Petrov. Et là par contre, on lui a donné des points. Parce que Dino, tu l'as mis 8e et Fab et moi on l'a mis 7e.
Bah je vous laisse parler alors.
Lui déjà il a fini la course.
Ouais, voilà. Mais moi je crois que c'est ça en fait. Je sais pas si vous avez eu la même chose que moi, mais tout à l'heure quand j'ai regardé le classement pour faire mon top 10, je regarde, je vois Petrov 5e, je vais avoir une. Je retourne, non, Petrov 5e. Moi je trouve que c'est incroyable, c'est pour ça que je l'ai mis en fait, parce qu'il a fini la course.
Moi c'est un autre pilote qui m'a étonné et que j'ai bien regardé la rediffusion de la course sur Eurosport pour me dire ah ouais, effectivement, il était là, c'est Massa. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit 6e, j'étais sûr qu'il était 9e, 10e, voire 11e, et en fait non, il était 6e.
T'as pas regardé la fin.
Oui, mais moi j'ai juste retenu qu'il avait doublé une Sauber, je pensais que c'était De La Rosa, je pensais pas que c'était Kobayashi.
Et donc sinon, Petrov.
Oh, avec like.
Oh le con.
Petrov, il a fait du GP2, ensuite ouais. Il a été engagé chez Renault.
Non mais juste hier.
Course sérieuse.
Ouais, voilà, mais encore une fois, on a envie de dire encore une fois devant son coéquipier, quoi.
C'est tout.
Pour le moment. Enfin, je me réserve pour la suite.
Ouais.
À noter, parce que j'avais oublié qu'on avait donné des points à Alguer Suari, qui n'est pas dans le top 10, mais on lui a tous les trois donné des points.
Ouais.
C'est la charité, ça.
Ah, mais il part quand même des stands.
Ouais.
Au final, il finit
devant Buemi. Quand il se tait, il se concentre, il a l'air pas si mauvais que ça.
Ouais, il peut,
l'an dernier, quand il était concentré sur ce qu'il faisait et qu'il prenait pas la grosse tête, il était capable de faire de bonnes choses.
Il va peut-être prolonger son bail alors.
Oui.
En tout cas, cette année. Hein.
Parce que le fera pas Kobayashi, vu qu'il est SDF.
Il est SDF, hein, il est pas SBF, sans baquet fixe.
Ah, c'est vrai.
Donc voilà, c'était juste pour noter pour Alguer Suari. On lui a donné des points, mais il était au-delà de la 10e place.
On voit que t'as bien fait, Shinji.
Bah oui, quand même.
T'as bien fait de nous rappeler avec Gaspari, c'est vrai.
Oui. On va revenir.
On le serait mal vu continuer.
On s'est vachement attardé sur un Gaspari.
Mais non, mais c'est vrai que comme il a fait une grosse remontée et qu'on lui a tous donné des points, je lui disais que vous aviez des choses à dire. C'est pour ça.
Eh ben non.
Parce que là, on va passer à la 6e place. Et lui aussi, il commence par M. C'est Massa.
6e.
Eh oui, 6e.
Oh, les gens sont charmants.
À noter que Petrov, lui, avait marqué...
On va de Massa, Gaspari, Petrov.
Mais non, Petrov avait marqué 135 points, et Massa en a marqué 370.
La nuit des secondes.
Donc Massa, on l'a un peu évoqué lors des actualités, ouais, on savait pas trop où il était, mais ce week-end, on savait où il était. Avec quand même cette image de Massa ralenti par Alonso. Et là, bizarrement, on n'a pas dit à Alonso, Massa is faster than you.
Oh non, faut arrêter ça. Ah, Malbranc qui nous l'a sorti pendant la course. Ah, oh, faut arrêter. On a mandé Alonso parce que Massa foutait rien depuis de saison.
Oui,
Alonso,
oui.
C'était le dernier qui était en course. Là, on n'a quand même pas demandé à Alonso de laisser passer Massa, alors que Massa, il est déjà 50 points derrière son coéquipier. Faut arrêter cette pédagogie, cette démagogie, quoi. Oui, monsieur Malbranc, vous êtes un démagogue. Tout autant que moi, mais quand même.
Oui, c'est clair. Il était bon d'ailleurs, Malbon, sur Eurosport.
Ah ouais, voilà.
Ils sont jamais aussi bons que quand il n'y a pas de course. C'est terrible.
Allez, je passe à la 5e place.
Ah bah ça, on dit rien du tout.
Bah, je sais pas.
Non mais je dis. Arrête d'aller aussi vite.
C'est vrai que tu as mis Massa quand même 3e.
Ah là, quand même.
Que Fab l'a mis 4e. Et moi, je l'ai mis que 6e, à vrai dire. Donc...
J'aime bien Fab.
Eh ouais.
C'est terrible.
Voilà, c'est pas moi qui ai donné des gros points à Massa. Voilà, on l'a vu au début, notamment par rapport à Alonso. Après, bon, il y avait d'autres personnes, on va dire.
J'avoue que Massa, comme toujours, j'ai fait mon top 10 un peu avant l'émission, après avoir revu la rediff, etc. Et j'avoue que Massa, ce qui m'a surtout surpris, c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, bon, d'abord, il y a son rythme tout au long du week-end, il a vraiment été dans le coup, il a 4e et 3e lors des essais libres, pas très loin d'Alonso, pareil en qualif, où il a même failli être devant Fernando pour la première fois de la saison. En qualif, manque de bol, Fernando a sorti un super bon tour qui le met en deuxième place. Pareil, il est du côté propre de la piste, il aurait pu faire quelque chose au départ, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas vu. Il a mis la pression, il a vraiment fait une belle course complète, un peu décevante parce qu'il il a d'abord peiné à passer Kobayashi, ensuite
il est décevante finalement sur la fin parce que jusqu'au 51e tour, il est troisième.
Et puis surtout, il fait il y a une période où ça va pas parce que il a du mal à passer Kobayashi, puis ensuite il a du mal à comment ça s'appelle quand il passe la HRT, il passe sur le mouillé, il adepte tendre, voilà, c'est Kartikeyan, il part tout seul. Et surtout, moi, j'ai été étonné, c'est par sa fin de course, quoi. À un moment donné, je crois quand il y a le drapeau jaune, il y a une safety car, je crois qu'il est 12e. 12e ou 10e.
12e, ouais.
Il est 12e, il remonte 6e, quoi. Ça se joue au finish 6e. Jusqu'à la fin, il n'a rien lâché. Il est parti chercher Kobayashi.
Dans le dernier tour.
Dans le dernier tour, enfin, ça s'est joué à quelques centimètres sur la ligne, quoi. Ça, c'est... En plus, voilà, le fait que ça se joue si près sur la ligne, t'as l'impression qu'il n'a rien lâché, quoi. À la fin, il s'est pas dit, il n'a pas fait son. Parfois, ce qu'on a tendance à voir, c'est qu'il baisse les épaules, qu'il n'a pas l'air motivé. On a l'impression que, voilà, quand le vendredi ça se passe bien, il est motivé pour le samedi. Puis quand le samedi ça se passe bien, il est motivé pour la course. Par contre, si jamais le vendredi ça se passe pas bien, si jamais il est pas motivé le vendredi, ça se passe moins bien. C'est encore une fois, c'est le côté dynamique, c'est l'aspect dynamique. Je pense que c'est un pilote qui fonctionne à la dynamique et que là, sur ce week-end, il avait trouvé la dynamique et qu'il a fait un bon Grand Prix.
Voilà, toute la question, c'est de voir s'il va pouvoir continuer sur cette dynamique et puiser dans ce Grand Prix.
Oui.
Sa hargne passée. Ça, de toute façon, c'est vraiment la question qu'on posait aussi Schumacher, qui a été énorme.
Ouais. Ouais.
Et c'est vrai que les conditions, faut quand même pas. Voilà, on s'enthousiasme beaucoup, mais ici, on a beaucoup joué. Même si on pense quand même que les Ferrari auraient été belles à voir dans des conditions normales de course.
Ouais. Mais c'est ça aussi, il y a le fait que la pluie nivelle les performances des voitures, hein, donc met un peu tout le monde sur pied d'égalité.
Même sous la pluie, hein, je pense que les Ferrari, il a manqué quelques trucs, si Alonso sort pas,
ouais, voilà.
Ça aurait pu être meilleur, je crois, même sous la pluie. Passons donc à la cinquième place, il a marqué 429 points, je l'ai mis cinquième, et vous l'avez mis sixième, c'est Kobayashi. Oh! Qui encore une fois nous fait une course à la Kobayashi, mais ça devient trop une habitude, on peut plus dire ça.
Une course à la Sauber, parce que finalement ce qui le sauve Kobayashi, tout comme de la Rosa, c'est le fait qu'il ne rentre pas au stand changer de pneus. Ils ont tendance depuis le début de saison, ils ont une voiture qui est vraiment très bien faite parce que ils ont la bonne stratégie pour la position où ils sont. C'est-à-dire que Ferrari, on a tendance à penser que Ferrari, ils ont peut-être joué, en tout cas en début de saison, qu'ils ont peut-être joué sur l'endurance en course, etc. Sauf que ils jouent quand même dans le haut du tableau. Là où finalement, on a l'impression que Sauber aussi a joué sur l'endurance en course. Ils sont pas forcément terribles en qualification, mais ils ont joué sur l'endurance en course. Et là, dans leur position dans la hiérarchie, c'est un truc qui marche. Parce que là on le voit, là ils ont profité clairement du drapeau rouge. Ils n'étaient pas rentrés pour mettre les pneus, le fait qu'ils soient économes avec les pneus et compagnie, le fait qu'en plus apparemment la Sauber se comportait vachement bien sous la pluie, ça l'a aidé. Il s'est retrouvé deuxième, et il a pu défendre sa place en plus, donc ça c'était bien.
Ah oui, il tient la deuxième place jusqu'au 53e tour. Après, malheureusement sur la fin de la course, il s'écroule un peu, on peut dire. Il finit septième. Je me demande si c'est pas suite à un dernier changement de pneus d'ailleurs.
Oui, c'est de toute façon lui le dit, dès que la piste s'assèche, on retrouve entre guillemets la Sauber telle qu'elle peut être sur une piste sèche. Il dit du point de vue de la place où je me qualifie sur toute la course, je suis 13e, il fait 7e je crois dans la course, il dit c'est un super résultat.
Bien.
Par contre, c'est vrai que quand on regarde au moment où je suis sur le drapeau rouge, je suis 2e, finir 7e, c'est pas un bon résultat. Donc c'est vrai que si on retire le fait qu'il a été aidé par la pluie et par la safety car, qu'il s'est super bien défendu en même temps. En précisant quand même que quand on se défend bien sous la pluie, sur une piste qui est séchante où t'as pas forcément liberté d'aller à droite ou à gauche, sans DRS en plus, ça complique un peu les choses.
Voilà, avec ce côté un peu que Lionel Froissart a souligné, qui est que les voitures quand même restent en parc fermé entre les qualifs et la course, on peut pas y toucher, les réglages sont super limités, et dès qu'il y a un drapeau rouge, vas-y.
Ils peuvent remettre des pneus, mais ils ne peuvent pas toucher la voiture.
Ouais, mais ils peuvent au moins remettre les pneus.
Ah oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire une voiture qui a des réglages sur le sec ne pourra pas mettre des réglages pour la pluie.
Mais c'est vrai qu'il y a le problème qui a été souligné déjà à Monaco.
Ah bah oui, c'est Enfin, dans un championnat où tu ne peux que rentrer pour mettre des pneus, si tu as droit à un tour gratuit, enfin c'est quand même.
C'est oui, en plus voilà, c'est. C'est voilà. Bon. La logique voudrait qu'ils ne changent pas les pneus, que même les pneus ils ne les changent pas.
Exactement. Surtout que l'argument du ça refroidit, c'est quand même un argument qui peut être contré par le fait qu'ils ont tous des couvertures chauffantes.
Oui, voilà.
Pas non plus.
Sinon, pour venir sur Kobayashi, rien à dire.
Non.
À part en effet ce très bon coup, enfin. Ils ont bien profité de ce drapeau rouge, finalement. Moi,
je reste sur ma ligne par rapport à Monaco. C'est pas le seul à en profiter, évidemment, mais il en a quand même bien profité. C'est un peu dommage pour d'autres pilotes. Je veux dire, Alonso le souligne très justement. Voilà, c'est bon. Je trouve cette règle un peu idiote, quoi. C'est vraiment. Je comprendrais dans d'autres circonstances s'il n'y avait pas que le ravitaillement en pneus, mais quand t'as que ça, je trouve que c'est complètement idiot. Mais après, ça peut se défendre. Je critique pas les arguments contraires, mais moi, je trouve pas cette règle opportune.
Après qu'ils changent, comme par exemple là, sur ordre de la FIA pour question de sécurité, bon, ok.
Oui, non, mais.
Voilà.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que oui, en effet, c'est. Ils devraient rester quand même de base avec leurs pneus, quoi. On passe à la cinquième place dans ce cas ?
Bah, bien sûr.
Même pas à la quatrième.
Mais encore mieux, alors.
Encore mieux.
Déjà.
Déjà.
C'était qui, déjà, le cinquième ?
Ah, Kobayashi. C'est pour ça que il y avait un blanc, ce que je cherchais, parce que on est quand même parti de Kobayashi pour parler jusqu'à la safety car, tout ça. Donc, à la quatrième place, je l'ai mis deuxième. Fab l'a mis deuxième. Dino, toi, tu l'as mis seulement quatrième.
Vilain.
Il a marqué 493 points, c'est Mark Webber.
Non mais je te remarquerai que je l'ai mis que quatrième, mais tout le monde l'a mis à peu près quatrième en moyenne.
Oui.
Parce qu'au total, il est que quatrième.
Oui, mais c'est injuste.
Ça veut dire qu'il y en a qui l'ont mis quand même 6 ou 7e. Hein. Je veux pas être méchant. Ouais.
Attends, il y en a qui arrivent à pas mettre Hamilton dans le classement alors qu'il est premier. Je ne veux, quoi que non, pas lui, je ne veux pas désigner personne, mais bon, il se reconnaîtra.
Non, Weber, vous l'avez mis bien pourquoi, vous ?
Moi, c'est surtout sur la fin de course, et notamment, c'est quand même cette belle opposition avec Schumi.
Moi, c'est un tout. C'est quand même, faut se souvenir qu'au départ, il se fait accrocher par Hamilton. Enfin, il y a un accrochage avec Hamilton, je disais.
Oui, c'est vrai.
Il repart tout de même, je crois, 14 ou 15e.
Il repart 14e, en effet, 14e. Ouais.
Il repart 14e, bon, au début de course, c'était quand même sur le mouillé, bien mouillé, quand même. Donc, voilà, toujours ses problèmes de kers, après, eu un problème de volant, enfin, c'est bon. Encore une fois, il fait une belle, très belle remontée, une très belle lutte finale.
Et puis, il a pris des risques, quoi. Enfin, il a pris, c'est le premier à chausser les pneus slick. Il a tenté des trucs, quoi. Ouais. Il fait des paris stratégiques, c'est admirable chez lui. À noter, tu parlais de l'accident avec Hamilton. La déclaration d'Hamilton était très bien parce qu'il a dit, il a pas dit que c'était de sa faute, mais il a expliqué l'accident sans rien accuser, ce qui change un peu de Monaco. Il a dit bon voilà, il m'a laissé la porte ouverte. Moi, je suis monté sur le vibreur, j'ai légèrement sous-viré, donc je l'ai tapé. Fallait signaler qu'il a fait une belle déclaration à ce propos, Hamilton.
Et toi, Dino ?
Fondamentalement, c'est à peu près pareil que vous. Maintenant, c'est vrai que il y a deux autres pilotes. Enfin, il était troisième.
Oui, bah là, on arrive dans des sphères où voilà. Ouais,
l'ai changé avec Massa parce que vraiment, justement, je l'avais déjà fait, je crois, il y a deux ou trois grands prix. Je voulais vraiment donner une promotion à Massa parce que voilà, on n'est pas habitué à le voir comme ça et que ce qui est vraiment était chouette. Je dirais que c'est plus l'aspect psychologique du pilote que j'ai mis en avant en mettant Massa devant Weber. Là où Weber, la dimension psychologique m'a semblé un peu moindre. Voilà. Mais sinon, il fait une course, il fait quasiment la même course que Button, en moins bien payé, quoi. Donc c'est
peut-être une de ses meilleures courses cette année.
Avec la Chine.
Avec la Chine.
C'est à peu près le même scénario. D'ailleurs. C'est-à-dire que Weber est excellent quand Vettel ne gagne pas.
Quelle surprise !
C'est drôle.
C'est bizarre. Hein.
Et puis encore, enfin. Non, il a fonctionné quand même les soucis. Hein.
Le kers, il a fonctionné pendant la course.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il a eu, il a pas fait les
oeufs. Non, qualif.
Il avait un problème sur les batteries et ça fonctionnait pas.
Il a dit aussi apparemment qu'il avait eu du mal avec les pneus aussi. C'est peut-être pour ça que, pour justifier peut-être ses résultats qui étaient peut-être un peu différents de Vettel.
Oui, je pense surtout qu'il a Vettel comme coéquipier.
Oui. Non mais même en ayant Vettel comme coéquipier, on s'attend à ce qu'il aligne les deuxième et troisième places, quoi.
Ouais, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il a, il accumule quand même les tuiles de son côté, quoi, le volant. Alors, c'est vrai que quand on entend parler du Kers, il y a quasiment que lui qui a des problèmes de Kers. On pourrait dire, tiens, il y a un avantage pour Vettel dans l'écurie. On donne un meilleur Kers à Vettel et pas suffisant à Weber. Mais quand on regarde tous les problèmes qu'il a, quoi, là, l'histoire du volant, il a des problèmes à chaque Grand Prix. Il a un problème en plus du Kers, il a un autre problème. C'est juste qu'apparemment c'est pas son année, tout simplement. Il y a des mecs comme ça, ils font une saison où ils accumulent toutes les merdes possibles. Espérons que ça lui offrira une saison 2012 avec moins de merde.
Et c'est vrai, ce choix de pneu, il a été le premier. D'ailleurs, je crois que quand il sort, il en glissade à la sortie des stands, ça va, plus de peur que de mal. Ouais, puis cette fin, c'est quand même cette très belle opposition avec Choumi, ça c'était classe.
Ouais. Puis c'était compliqué parce que, alors c'est justement là où moi, par contre, il y a un petit truc qui m'a dérangé pendant la course. Alors on l'a pas vraiment vu en action, c'est le DRS.
Ouais.
C'était particulier parce que pour la première fois, ils avaient décidé de faire deux zones DRS, mais avec une seule zone d'activation. C'est-à-dire que le DRS était détecté à la sortie de l'épingle. Ensuite, c'était détecté après l'espèce de petit virage. Ils appellent ça un virage, c'est pas vraiment un virage, mais au tout début de la longue ligne droite.
Oui.
Et donc, sur cette zone de détection, était détecté était autorisé à déclencher le DRS sur les deux zones. Sauf que le problème, c'est qu'on est à Montréal, dans une zone où déjà la première ligne droite, la grande ligne droite vers les stands, est déjà une zone extrêmement favorable.
Ah oui, oui, je sais pas, tu parles, oui.
Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, on a vu Michael Schumacher qui s'est fait dépasser
il se fait dépasser en fait sur la première zone et sur la deuxième, comme il a encore le droit de l'utiliser.
Mais Weber,
il se met en boost en fait.
Alors qu'il a plus personne à dépasser. Et c'est là où, je crois que à un moment donné, les commentateurs, ils ont dit, Schumacher va pouvoir, dans le prochain tour, il le laisse passer parce que dans le prochain tour, il pourra se remettre derrière. Non, mais il pourra pas se remettre derrière puisque Weber, il a le DRS dans la ligne droite des stands, qui va le mettre et que, il va prendre un avantage en ligne droite sur la Mercedes, c'est pas n'importe quoi. Surtout qu'après, on sait que la Red Bull, elle, est meilleure dans les virages. Et ça s'est confirmé derrière puisqu'on a plus revu Schumacher dans l'échappement, de la Red Bull. Et ça, c'était franchement dommage. Donc, je reste quand même dubitatif. On verra ça à Valence, mais sur cette zone, cette double zone avec une seule détection, je reste tout de même dubitatif.
C'est sûr. Sinon, oui, pour Weber, j'avais un petit truc. Enfin, on sait qu'à un moment, au plus fort de la lutte, quand ils étaient tous les trois regroupés, il passe une première fois Schumacher, mais il l'a passé donc, et il coupe la chicane.
Ouais.
Et très sportivement,
il lui a rendu la place derrière.
Il lui rend sa place derrière, alors que Button le suivait de près, donc c'est possible. C'est ça que je voulais signaler aussi. C'est possible de rendre une place même si t'es sous la pression. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très très classe. C'est très.
Mais ça a été très propre à ce niveau-là parce que je crois aussi c'est Massa qui une fin de safety car sur un restart. Il part trop tôt et là encore c'est pareil. Il a eu le temps de rendre la place. Il n'y a pas eu de souci.
Ce qui est plus étonnant avec Weber, c'est que quand même il était passé.
Ouais, voilà. En plus, c'est ça. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il l'a rendu pour se couvrir au cas où, mais que il avait peut-être pas forcément besoin de la rendre il était passé devant la Mercedes. Alors après, c'est vrai qu'il était en équilibre précaire, coupe la chicane. Rien ne dit qu'il serait resté devant en freinant si tard, mais il l'a rendu alors que peut-être que de toute façon les commissaires lui auraient rien dit. Donc. En tout cas, c'était intelligent déjà d'anticiper ce fait-là et de se dire attention, j'aurais peut-être. On parlait d'Hamilton il y a 15 jours. C'est vrai que on a parfois l'impression qu'Hamilton il réfléchit pas suffisamment à ce qui va se passer dans les 5 secondes à venir. Là, on a l'impression que justement Weber, lui, il a un petit peu réfléchi aux conséquences qu'il pouvait y avoir ou son équipe, peut-être qu'on lui a donné la consigne à la radio de se dire attention, là peut-être qu'il va y avoir un truc, autant s'en occuper tout de suite. Comme ça, après, on sera pas embêté.
Ah mais Hamilton l'a montré là. Je veux dire quand il défonce son train arrière. Il continue 3-4 virages, alors que clairement,
comme à Monaco.
Genre, il a pas senti que son arrière, il était pété, quoi. Alors qu'en plus, il avait l'endroit, on va dire, pour se garer et ne gêner personne. On va passer au podium.
Oui.
Et à la troisième place, il a marqué 494 points.
Ah là, c'est de l'arnaque.
Un point devant Weber. C'est son coéquipier, Sébastien Vettel.
Oh, c'est logique.
Alors là, honnêtement, personnellement, je comprends pas.
Ça me paraît logique.
Il fait une course quasiment parfaite. Je dis quasiment, puisque finalement, il fait une erreur.
Oui, mais alors, vas-y, continue.
Il prouve qu'il est humain. Voilà. Non, mais voilà, il est humain. Il est capable de faire une erreur. Bon, ça a été l'erreur au mauvais moment. Sinon, globalement, il fait une course quasiment parfaite. L'arrêt, le drapeau rouge ne l'a pas pénalisé. Il a super bien fait les restarts.
Ah, il a fait un restart sur Schumacher qui était magnifique. Il a fait
globalement, globalement, à part sur le dernier tour et cette heure qu'il fait, il fait une parfaite. Hein, il n'y a aucun souci.
Oui, oui, mais il fait une course parfaite en étant en tête sur un Grand Prix qui se court à la majorité sous la pluie. Voilà, bon, on sait que de toute façon, partir en tête, c'est un avantage indéniable, oui. Même sur le sec, mais sur la pluie, c'est encore plus important. Tu n'as rien devant toi pour te gêner, pour gêner ta vision. Mais c'est pas enlever du mérite à Vettel, c'est juste reconnaître un fait, c'est qu'en tête sous la pluie, c'est plus facile. Après, il faut rester sur la piste, il a fait une très belle course, enfin, il s'en faut de peu pour qu'il gagne encore une fois, ce n'aurait pas été volé. Hein. Oui, je l'ai mis cinquième.
Moi, je l'ai mis quatrième, voilà.
Non, ça peut paraître sévère, mais c'est vraiment pas sévère. Je pense que les autres avant ont plus de mérite, même si le mérite, ça n'apporte pas de points. Mais voilà. Après, Vettel, il n'y a pratiquement rien à dire. Il fait une erreur, c'est normal. À un moment, il faut bien qu'il fasse des erreurs à un moment. Il est humain, comme tu dis. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais il a l'avantage de partir en tête. Il a fait une bonne qualif. Il a tout fait pour ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, bon, moi, je pense qu'il y avait d'autres pilotes qui ont montré plus de choses.
Ah oui.
Encore une fois, voilà, c'est pas. Moi, belle course.
Mais ce qui est surtout, et il a admis dans ses déclarations d'après-course, c'est que on peut faire un comparatif avec Hamilton en 2008 à Silverstone, où Hamilton tue la course, mais de façon incroyable. Enfin, il met quasiment presque tout le monde à un tour. Ce qu'on peut regretter, c'est que là, il a fait, entre guillemets, du Vettel. C'est-à-dire qu'il a, sur sa dernière safety car, il prend une seconde et demie sur le premier tour, il va rajouter 5 dixièmes sur les tours suivants, puis quand il a 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, il se dit c'est bon, ça y est, je me mets en mode croisière. Il a pas tué la course.
Non, c'est
et il
vrai.
Le dit, il le dit, j'ai été trop conservateur, ça se voit d'ailleurs dans sa stratégie, il est tout le temps dans la dernière vague à chaque fois qu'il met les pneus intermédiaires, puis dans la dernière vague qu'il met les pneus slick, à chaque fois, de toute façon, il profite de la safety car, c'est vrai que c'est sûr, la solution la plus sûre à ce moment-là, jamais il tue la course, jamais il continue, d'ailleurs, la preuve, c'est que, à la fin, quand il commence enfin à avoir Button, clac, tout d'un coup, son chrono s'améliore d'une seconde et demie, il se met à lui-même une seconde et demie.
Ah ouais.
Il aurait dû faire ça à chaque tour. C'est-à-dire que c'est le paradoxe, quoi. C'est que d'habitude, on dit qu'il tue les courses, ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'il a jamais 30 ou 40 secondes d'avance. Il a toujours le même petit matelas, 10 ou 15 secondes. C'est quasiment tout le temps pareil.
Mais aussi parce qu'il gère. Hein.
Mais non, mais c'est ça, c'est qu'il gère. Mais c'est qu'à un moment donné, moi j'ai envie de lui dire à Seb, arrête de gérer, quoi. Arrête de gérer. Et j'espère que là, ça sera. C'est une petite erreur, voilà. C'est un peu de suffisant sur la course. En même temps, il a le luxe de pouvoir être suffisant avec la voiture qu'il a. Et en ce moment, il est un petit peu en état de grâce. C'est une leçon qu'il va falloir qu'il apprenne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa déclaration derrière, il est très lucide dans ce qui s'est passé. Il le dit, voilà, j'étais trop conservateur et compagnie. Et on sent le pilote qui apprend de son erreur. Là, il a fait une petite erreur d'appréciation, je pense. Je pense que ça explique aussi sa faute quand il voit débarquer Button. C'est-à-dire qu'il se dit merde, putain, je vais peut-être foirer ma course, je vais devoir carburer sur les 2-3 derniers tours. Et puis, bien évidemment, comme lui il est sur un rythme de croisière, il a eu à dépasser personne, rien. Il arrive avec un mec derrière qui est totalement galvanisé par toute la course qu'il vient de faire parce qu'il vient de se dépasser tout le peloton. Il a le syndrome du mec du ressuscité, quoi, qui vient quand même de s'arrêter 6 fois au stand et compagnie. Il est dans ses échappements. Button, il est chaud. Vettel, il est un peu froid. Il a pas forcément beaucoup attaqué sur les derniers tours, etc. Donc faut qu'il commence à mettre, je dirais, un peu plus de panache dans ses victoires, parce que en dehors peut-être de Monaco, c'est vrai que ses victoires depuis le début de saison manquent un petit peu de ce panache quasiment destructeur de ce côté. Je vous roule dessus comme il est capable de faire.
Il se schumacherise.
Ouais, voilà, c'est ça.
Même Schumacher, même quand il faisait, je pars en pôle, je fais une course en tête, il mettait plus d'écart, je trouve. Il écrasait la course. Il écrasait la course.
Mais ça rejoint ce que je disais là, il y a 15 jours pour Monaco. J'ai l'impression que c'est trop facile pour lui et qu'il se met dans la difficulté. Comme si peut-être il faisait peut-être un complexe d'avoir une trop bonne voiture.
Mais c'est un peu, enfin je sais pas si tu te souviens, mais on avait eu un peu cette même impression après l'Australie. On se disait la Red Bull est très très forte et on se disait mais ils cachent quand même un peu leur jeu. Et est-ce que c'est pas, enfin, c'est pas qu'est-ce qui pourrait motiver ça, mais c'est pas la peur qu'on regarde trop sur leur voiture, c'est pas la peur, enfin je sais pas, mais c'est vrai que le fait qu'ils gèrent au bout de quelques tours, ça donne toujours cette impression, comme tu dis, oui, qu'il a peut-être
qu'il aurait
peur
pas non plus la crainte réflexe de la casse, ou enfin tu vois, de se dire je veux pas, je sais que je vais, si je vais à ce rythme, je vais les battre, Mais si je vais un peu plus loin, j'ai peur de casser et puis finalement de tout perdre.
Je pense qu'il y a aussi peut-être un effet derrière, c'est l'effet Schumacher. Je pense qu'il a tout simplement pas envie de connaître ce qu'a connu Schumacher. Il a peut-être aussi conscience que dominer à ce point la Formule 1 et dominer à ce point les courses de la tête et des épaules, ça rend pas populaire. Et que peut-être qu'implicitement, je sais pas, peut-être qu'il se dit je vais pas trop dominer parce que pour mon image ça serait pas bon, mais de toute façon quoi qu'il arrive, à chaque fois on dit c'est encore Vettel qui gagne, il est toujours devant. Que tu sois devant avec 5 secondes ou avec 40 secondes, pour les gens ce sera toujours pareil, si t'es tout le temps devant.
Il a envie d'être aimé.
Ouais, mais le pire, c'est que je suis même pas sûr qu'il en est conscient. Je pense que c'est peut-être même implicite.
Oui, c'était envie.
Ouais, puis bon, c'est vrai qu'après, quand tu vois sa tête sur le podium, bon, tu te dis que c'est quand même le mec qui veut gagner, quoi.
Ouais.
Et il aurait préféré, quoi.
Mais c'est ça, il y a un paradoxe, quoi. C'est-à-dire que tu sens vraiment le mec qui veut gagner, mais en même temps, le mec qui veut pas écraser.
Voilà. Il a pas fait ce choix, enfin, voilà, que peut faire dans d'autres sports ou même en F1, de se dire, voilà, je sais que je serai pas aimé, mais je vais leur défoncer la gueule. C'est ça?
Ouais. Ouais, il y a peut-être aussi un fait qu'il faut, si on compare à Schumacher. Schumacher roulait pour Ferrari. Lui, il roule pour Red Bull. La différence, c'est que tout le monde peut pas s'acheter une Ferrari, mais tout le monde peut acheter du Red Bull. Et donc, si tu deviens trop dominateur, si tu deviens trop dominateur, que tout d'un coup, il y a une espèce de mouvement anti-Vettel qui apparaît, comme il y a eu un mouvement anti-Schumacher, où les gens étaient lassés et que la domination est trop nette, est-ce qu'il y aura pas un impact sur l'aspect consommation des gens, quoi?
Tu crois vraiment que la F1 a une influence sur la vente du Red Bull?
Je sais pas si ça a une influence sur la vente du Red Bull.
Ça fait parler la marque.
Voilà, ça fait parler de la marque. Mais si à partir du moment donné où on commence à parler d'une marque négativement, c'est jamais bon.
Oui.
Si jamais même les gens qui connaissent pas, s'ils entendent, c'est encore le Red Bull qui a gagné, et que même si c'est associé au fait de la victoire, mais que en plus il y a le côté de négatif de dire encore, c'est répétitif, etc. C'est de l'ordre du subconscient, quoi. C'est de l'ordre de la liaison dans les gens. C'est le principe de la pub, hein.
Alors là, c'est vrai que c'est pas aussi direct qu'un constructeur automobile. On comprend tout de suite la logique entre la victoire et la vente de voiture. Là, c'est vrai que.
Bah, tu te rappelles quand l'affaire du Crashgate avait explosé, Renault s'était retrouvé pratiquement sans sponsor, quoi.
Ouais.
Je pense pas que ça doit beaucoup te faire vendre, augmenter ton chiffre d'affaires, mais par contre, ça peut beaucoup te le faire baisser, je pense.
Ouais.
Ça peut avoir un impact.
Bah, c'est les Américains qui ont un dicton sur ça, sur l'idée que voilà, tu gagnes le dimanche et le lundi tu vends la voiture. Voilà.
Ils ont
un proverbe pour ça.
La voiture qui s'impose le dimanche, c'est celle qui est le mieux vendue le lundi dans les concessionnaires.
Voilà, oui.
Mais là, c'est vrai que c'est là où c'est particulier, c'est que finalement, quand on réfléchit, c'est quand même une voiture, c'est quand même une écurie qui est un fabricant de boissons, qui est un fabricant de produits de tous les jours, quoi. Moi, je pense que c'est aussi une possibilité. Je pense qu'il y a plein de faits qui font que ils gèrent un petit peu la peur de la casse, l'envie de pas forcément trop dominer et de peut-être pas éveiller trop les soupçons sur la voiture, etc. Et puis le fait aussi de pas s'attirer ce regard négatif du parti des spectateurs, même si quoi qu'il arrive, il arrivera ce regard quand tu domines. On aime bien les gens qui gagnent, on n'aime pas les gens qui dominent, ça c'est constant. Alors souvent on dit que c'est des Français, mais c'est dans tous les pays c'est pareil. On n'aime pas les gens qui dominent.
Jimmy Johnson, c'est
cool. Voilà, exactement. Mais exactement, tu as fait raison. Chose à rajouter sur Vettel?
Non.
En même temps, on parle déjà assez de lui cette saison. Dans ce cas-là, passons à la deuxième place.
Ouais.
Et on va quitter un jeune Allemand pour un vieil Allemand.
Ah, yeah.
Il a marqué 712 points.
Ouais.
Rappelons que Vettel en a marqué 494.
Le podium a été assez net quand même.
Oui, il a été net.
En tout cas, les deux premières places. Après, pour le troisième, quatrième, c'était serré, mais.
C'est Schumi que on dit, ouais, on a enfin retrouvé le Schumi qu'on attend depuis un an et demi.
Bah, c'est là encore, sous la pluie, est-ce que ça met pas surtout en valeur les pilotes de talent et l'expérience, tout en nivelant finalement un peu les performances des voitures et donc
En même temps, depuis l'an dernier, il y a déjà eu des courses sous la pluie. Et il avait pas forcément été aussi fringant que ça.
Non, mais il a pris...
En Corée, il a été bon en Corée.
Il a pointé jusqu'à la deuxième place. Non, quand même pas. On va pas dire qu'il aurait pu gagner, mais c'est dommage. Il aurait pu accrocher le podium, en tout cas.
Quand on voit ce qu'a fait Button, on peut poser la question.
C'est vrai qu'ils ont le même moteur.
Ouais.
Ils sont pas le même. Ils sont pas le même boîte.
C'est ça le problème, je crois.
C'est le petit problème.
Petit problème.
Mais il a pris des risques, hein, quand même, Schumacher, parce que je me souviens, je crois que sur Le premier safety car, en fait, après l'accident d'Hamilton, c'est lui, il se jette, mais directement dans les stands. Quoi. Tu le vois repartir en patinant tellement il avait envie de repartir tout de suite en intermédiaire. Je pense que rien que là, tu savais qu'il allait faire une belle course parce que tu sentais vraiment l'état d'esprit offensif, le mec qui avait envie de pondre une stratégie pas du tout conservatrice. D'ailleurs, totalement à l'inverse de Rosberg qui, lui, justement, a payé son excès de conservatisme, il le reconnaît lui-même. Je trouvais que c'était intéressant et bon, alors c'est sûr, encore une fois, il faut quand même pondérer parce qu'il n'y a bien que les circonstances de course qui ont pu l'amener là. Parce qu'on a vu très vite que quand la piste était sèche, ça a été assez rapide.
Ah oui, c'était plus dur, oui.
Ouais.
Malheureusement, quand il y avait Weber et Button derrière, on a tout de suite compris que le podium ce serait très difficile à avoir. Mais c'est intéressant dans le fait qu'on voit quand même que dès que tu mets un peu de grinta, le talent est toujours là quand même, quoi.
C'est des trucs où on sent que voilà, le sens de l'attaque, le sens de la gestion de la pluie, cette espèce de feeling qu'il a quand la voiture est sur de l'eau, on sent que c'est à l'intérieur de lui, que ça n'a pas changé. C'est là où on se dit voilà, c'est dommage quand on voit ce que sait faire Schumacher, ce qu'il est capable de faire. Malheureusement, on n'arrive pas à le voir à chaque Grand Prix. C'est là où finalement, je pense que tout simplement, il accuse les années, il accuse son absence de 3 ans.
Bon, après, il pensait, je pense, enfin. Il avait, je crois, dans l'idée quand il est revenu, qu'il pourrait peut-être se battre pour la victoire, au moins pour les podiums.
Ouais.
Quand il s'est aperçu que la Mercedes était quand même pas terrible, je pense que ça aussi, ça lui a mis un petit coup. Okay. Bon, alors, il va aller au bout, sans doute, de son contrat, parce que, voilà, ça lui fait aussi plaisir quand même d'être là sur le paddock. Il pense pas qu'il boude son plaisir à y être. Mais il y a ce côté-là aussi, et peut-être ce côté, je pensais revenir et être là pour me battre avec les autres, et puis finalement je vois que je peux pas me battre vraiment pour les gros points, toujours cette déception après, voilà.
Son contrat porte jusqu'à l'an prochain, mais enfin, on sait pas encore pour l'an prochain, on ne sait jamais. Il faudrait pas qu'il se fasse virer, en fait. Ça serait quand même mieux, quitte à ce qu'il parte, que ce soit lui qui dise, bon, c'était moins bien, je pars peut-être de moi-même, quitte peut-être à rester la troisième année dans l'équipe, mais pas forcément en tant que pilote titulaire.
La conviction qu'il serait dans une bonne voiture, une McLaren, une Ferrari, pourquoi pas une Red Bull.
Tu sens qu'il aurait des fulgurances et qu'il pourrait taper quelques victoires.
Ah bah, ouais. Oui, je pense même qu'il serait vraiment beaucoup plus impliqué.
Ouais.
Je le sens pas hyper impliqué dans Mercedes, moi, pour dire. Mais là, sur cette course, il vient 100%, quoi. Je pense qu'il aurait la bonne voiture, ça serait peut-être.
En même temps, c'est vrai que Mercedes n'a pas été construite autour de lui, c'est différent. C'est justement, comme tu as dit, c'est un grand constructeur.
Et puis c'est pas Ferrari, quoi. C'est vrai que j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait une famille Mercedes.
Oui.
Parce que c'est une écurie qui est jeune, même s'il y a Rose Brown, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette famille. Alors que chez Ferrari, il était quand même dans Ferrari, une écurie
chez
Formule
lui.
1. Voilà, il était dans une famille Ferrari. Je pense que ça rentre aussi en ligne de compte tous ces paramètres-là. Il est pas dans une famille.
On peut noter, il peut aussi avoir cette satisfaction. Il a clairement complètement effacé Rosberg ce week-end. Enfin, en tout cas, sur la course.
Oui, parce que le pire, c'est que Rosberg n'a même pas fait une course à la Rosberg, qu'il a pas été bien classé.
Oui, on le voit pas, mais il se classe plutôt bien, ou relativement bien. Là, on le voit pas, et puis on le voit pas, quoi.
Barrichello a fait une course à la Rosberg.
Oui, voilà.
Oui, voilà, on peut dire. Voilà,
on l'a pas vu, et il est plutôt bien classé.
Voilà.
Et,
voilà, 9e pour Williams, c'est bien. Même un Algir Sari, je trouvais qu'on l'avait pas trop vu.
Oui, même pas vu.
Un très bon truc. Voilà.
Oui, c'est clair.
Au point qu'il a pas été classé par les auditeurs.
Voilà.
De toute façon, ils n'ont vu personne, puisqu'ils n'ont pas vu la course.
C'est vrai.
Les pauvres.
Et on peut d'ailleurs saluer parce qu'on a beaucoup de points, donc beaucoup de votes.
Ouais.
Donc d'abord, vous avez beaucoup voté, alors que c'est vrai qu'on enregistre lundi soir, c'est à peine 24 heures, voire moins que ça, depuis la course, même si elle lundi de Pentecôte. Et c'est vrai qu'un certain nombre de, je pense, des gens qui ont voté n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir voir la course. Donc merci. Alors passons au vainqueur de la course, au vainqueur du classement du SAV.
Mais qui cela peut-il bien être ?
Il a marqué 954 points.
Non, Shinji, il a marqué l'histoire.
Ah oui, il a marqué.
On s'en fout des points.
Il a gagné à la fois le Grand Prix le plus long, le Grand Prix avec la moyenne la plus basse.
Oui. Le Grand Prix qui aurait pu être l'un des plus courts.
Qui aurait pu être un des plus courts. Je ne sais pas, après que... Ça fait déjà pas mal pour l'histoire, à moins que tu aies d'autres faits historiques. Non, c'est tout.
Non, mais moi, je dirais ce que j'ai dit hier sur le live. Button a sorti ce qu'on appelle littéralement un chef-d'œuvre, d'intelligence de course, de pilotage, même s'il y a des circonstances qui ont joué pour lui, mais il a sorti un chef-d'œuvre, et un chef-d'œuvre qui est à la mesure d'un Donington 93 avec Senna.
Donc, rappelons que Button, donc, à la sortie du 40e tour...
était 40e.
Non, mais il était 21e.
Oui, avec 20 et quelques secondes.
Voilà, mais quand même 21e.
Bon, il y a quand même eu une safety car entre les deux. Hein.
Ouais, mais il n'y en a eu qu'une, je veux dire. 40 ouais, non, tours, il y a déjà eu pas mal de safety car avant et tout. D'ailleurs, il gagne pas de place sur la dernière safety car. Parce qu'à ce moment-là, il était 4e ouais. Et il est, voilà.
Mais non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est que on voit toutes les circonstances qu'il a eues dans sa course, on voit tous les, voilà, le drive-thru, on voit les deux crevés, enfin deux crevaisons avec Hamilton. Voilà, les arrêts au stand, on voit toutes les merdes qu'il a eues, mais ce qui est étonnant aussi, c'est que on voit tout ce qui l'a aidé aussi à remonter. Les safety cars, la stratégie des pneus, que, effectivement, par exemple, que, indirectement, quand il se fait taper par Hamilton, il crève, il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il met les intermédiaires. Il va avoir les intermédiaires, 6 ou 7 tours de plus que les autres. Les autres vont vraiment attendre. Lui, pendant ce temps-là, il a le temps de bombarder, de remonter tout le peloton. Quand apparaît la pluie, il est remonté 8e. Il était 6e. Il est redescendu 14e. Il est remonté 8e. Donc, il a profité aussi de profiter des événements de course.
Et qu'il a créé en plus. Il a créé sa propre course en fait.
Voilà, c'est qu'on voit tout ça, on voit les circonstances atténuantes, etc. Et pourtant, moi qui ai souvent tendance à dire quand même, faut regarder les circonstances. Il a été aidé par-ci par-là. Là, je le vois, je le dis, mais j'ai juste envie de dire, voilà, ce qu'il nous a fait, c'est un chef-d'œuvre.
Et il peut dire merci au DRS. Parce que quand même, sur le 69e tour, il est encore à une seconde, enfin, justement un peu moins d'une seconde. Pas certain que sans le DRS, il la rattrape cette seconde.
Oui, et puis ça joue forcément dans l'erreur que fait Vettel, ce qu'il pense bien sûr au DRS.
Parce que dans les 68e tour, il est à une seconde 1, une seconde 2, donc il est encore un peu loin. On sent qu'en fait, il a besoin du DRS pour vraiment recoller à Vettel, pour espérer ce qui va se passer. Il ne le fait quoi, ouais, au 69e tour, hein. Et là, il colle et il arrive, ce qui se passe. Là, pour le coup, il peut dire merci.
Ça fait presque regretter en fait que Vettel ait fait son erreur, parce que s'ils étaient arrivés à moins d'une seconde au moment de la zone de déclenchement du DRS, on aurait pu avoir une fin à la massacre Kobayashi. Oui, tiens, d'ailleurs, ça fait penser qu'il, même s'il fait une erreur, il fait une erreur propre. Il fait pas un vieux tête à queue fait passer quatrième, tu sais. C'est quand même un beau rattrapage, hein, parce qu'il était quand même pas loin de la ligne.
Oui, finalement, il fait une petite erreur.
Pour revenir à Button, ça a été, il y a quelque chose qui a été souligné hier soir dans Dimanche F1, je crois que c'est par Lionel Froissart. La différence, c'est vrai que c'était un peu son grand prix, parce qu'il a eu quand même aussi un gros coup de bol. C'est que quand il double Weber, qui est totalement à la ramasse dans le début de la ligne droite, pour passer en troisième position, il fait un écart monstrueux sur la partie humide avec des pneus slick, et il reste totalement droit. Il ne part pas à la faute, comme est parti à la faute, par exemple, Massa, en doublant Kartikeyan. Et c'est vrai que là, ils disent, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de chance à ce moment-là. Ouais.
Mais il a eu des dépassements rock'n'roll, en plus, toute la...
Ah ouais, non.
Enfin, on a parlé d'Hamilton, on a parlé d'Alonso. D'ailleurs, heureusement, il a rien perdu sur tapis vert. Parce que il y a eu beaucoup d'explications d'ailleurs après la course sur plein d'événements, sous la pluie, plein de dépassements. Mais vrai aussi, ils l'ont souligné, il y a l'image de Button, ça l'aide un peu quand même.
Oui, mais est-ce que vraiment ils auraient retiré, même s'il avait été coupable, est-ce que vraiment ils auraient retiré la victoire à Button pour redonner une victoire à Vettel?
Oui, il y a ça aussi.
je suis pas sûr.
Certainement pas. Faut pas se leurrer, faut pas.
Ouais.
Non, parce que c'est vrai que Button n'a pas un casier comme peuvent l'avoir.
Bah oui, c'est ça en plus, voilà.
Comme peut l'avoir Hamilton.
Ça l'aide, il a son image de gentleman driver qui fait que voilà, on pense pas forcément que c'est de sa faute de base.
Oui, et puis, après moi sur l'accrochage avec Hamilton, je suis moins. J'ai des doutes quand même sur Button sur ce moment-là. Je dis pas, il l'a serré.
Hamilton peut le doubler, c'est vrai que Button. C'est vrai que Button se resserre un peu. D'ailleurs, j'ai eu très peur. À un moment, on a très peur. On se dit que, si...
Si la voiture se met en travers...
Non, mais
ça part fort. Là.
Le truc, c'est qu'à ce moment-là, comme il s'est loupé, qu'il est mal ressorti, il n'est plus vraiment sur la trajectoire idéale, qui est, entre guillemets, même si les conditions sont très pluvieuses, qui est, entre guillemets, un peu plus sèche. Donc, il ne va pas tout de suite se remettre sur sa trajectoire. Il s'y met lentement. Mais c'est vrai qu'avec la pluie, avec la boue, peut y avoir, c'est ce qu'il disait hier dans Dimanche F1, peut y avoir plein de trucs sur les rétroviseurs qui, déjà, traditionnellement, ne sont pas forcément de bons outils pour regarder derrière. Quand il pleut, ça l'est encore moins. Et c'est vrai que dans ces conditions, conditions-là, c'est là où, entre guillemets, je donnerais un petit tort à Hamilton et où je prendrais plus Button. C'est qu'il faut comprendre dans ces conditions-là, c'est que c'est celui qui a la meilleure visibilité qui doit faire attention. Là, celui qui a la meilleure visibilité, c'est clairement Hamilton qui est derrière. Voilà, c'est dans la réaction, il a peut-être tout simplement pas pensé qu'il y avait son coéquipier derrière. Il a peut-être pensé. Enfin voilà.
Il a franchement pas la réputation d'être un gars qui fout les adversaires dans le mur. Hein, donc.
C'est un doute. C'est pas une affirmation. Sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est pour ça, c'est pas habituel. C'est pas un pilote qui cherche le contact.
Oui.
Qui l'évite même plutôt. Qui est toujours des manœuvres de dépassement en général propres. Donc c'est pour ça. Bon, après.
Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que d'après vous, Button pourrait être le deuxième homme de cette saison? Parce qu'on a beaucoup parlé en début de saison, peut-être d'Hamilton. Et on voit quand même que depuis... Alors, c'est vrai que cette course-là est particulière, mais Button vient quand même de faire 3 podiums de suite. Clairement, c'est vrai qu'au début de saison, on avait dit qu'il avait peut-être ses chances par rapport aux pneus Pirelli. Et d'ailleurs, au début, il a tenté des choses, ça n'a pas forcément marché. Mais, justement, depuis 3-4 courses, il fait de très bonnes choses avec les pneus. Alors, même si c'est vrai, cette semaine, c'était très particulier, est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être Button, le plus grand rival de Vettel? Même si, bon, il a un gros retard de points, on est bien d'accord.
Non, pour moi, vas-y.
Pour moi, le plus grand rival de Vettel, c'est Hamilton. Parce que je pense sincèrement que sur la course, si Hamilton ne se plante pas, que c'est lui qui gagne la course.
Oh!
Ah oui, non, mais je le pense, avec les réglages de la voiture, avec le choix des pneus, je pense honnêtement que Hamilton aurait pu gagner la course.
Ouais, je vais être assez d'accord avec toi, dans le sens où on voit bien que en ce moment Hamilton est quand même dans une mauvaise passe, et derrière c'est qui ? C'est Button qui prend le dessus, dans un style tout à fait différent, et sans doute, même si on peut pas présager, mais je vais être comme Dino, et je vais penser quand même que Hamilton aurait gagné cette course, en étant encore plus agressif qu'un Button qui a quand même déjà lui aussi été assez agressif. Oui, je pense que Hamilton a le style, de toute façon, dans ces circonstances-là, quand les Red Bull sont pas forcément ne dominent pas trop, d'être le rival de Vettel. Je suis d'accord.
Mais il faut qu'il arrête sa mauvaise passe, ça c'est clair.
C'est ça. Non, mais c'est ça, ça reste ça. Là, en ce moment, je vais te dire que c'est Button, de toute façon.
Ah oui, bien sûr.
Button,
oui.
Largement, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire.
Le meilleur ennemi d'Hamilton, c'est Hamilton lui-même. C'est son grand défaut. Oui. Le jour où Hamilton commence à tomber dans ses petits travers, ce qu'il a tendance à faire, voilà. Ce qui est terrible, c'est qu'on a vraiment l'impression que la mauvaise passe d'Hamilton rend plus service à Vettel qu'autre chose, quoi.
Bah, clairement, oui, avec le niveau de Vettel cette année, faut être à 100%, quoi. Faudrait au moins réussir à accumuler les deuxièmes places, quoi. Au moins.
Et puis bon, tu dis très justement que Hamilton est son propre ennemi, ça c'est certain. C'est-à-dire, c'est typiquement le sportif qui a un style qui le met de toute façon dans des situations dans lesquelles, de toute façon, ce qui fait sa force, c'est-à-dire son côté offensif, son côté agressif, se transforme rapidement dans une mauvaise passe, en quelque chose qui fait sa faiblesse. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé sur ces deux grands prix. Moi, ça me fait penser, ça me fait penser à un tennisman qui joue magnifiquement la volée, mais quand il est dans une mauvaise passe, il n'y a rien qui passe. Ben là, faut savoir se montrer dans ces moments-là conservateur. Faut savoir jouer du fond du court. Ben, faut qu'Hamilton sache lui aussi se raisonner, être moins offensif. Là, c'est vrai que j'ai un doute sur Button, mais je reste quand même conscient que là, tout de même, Hamilton est un peu présomptueux. Mais ça aurait pu là être très, très dangereux pour lui, pour Button et pour les gens qui étaient sur le... Parce que j'ai revu, enfin, je sais pas, vous avez sans doute revu la course, mais au moment de l'impact, quand même, il y a des panneauteurs qui tendent le bras avec le panneau.
Ouais.
Très, très dangereux. Ça aurait pu vraiment être carnage et voilà, quoi. Attention.
Mais ce qui est un peu problématique, c'est qu'on sent qu'il y a une sorte de spirale autour de Lewis, alors que ce genre de spirale, il arrivera jamais à Button.
Non,
même
non,
là, comme le dit Fab, c'est vrai que sur la manœuvre de Button, il peut y avoir un doute, mais encore, on dit ça avec extrêmement de prudence. Ça aurait été le même truc dans les positions inversées. Je suis quasiment certain que Lewis Hamilton s'en prenait plein la gueule en disant « Ouais, il a fermé la porte à son coéquipier, etc. » On a plus de tolérance aussi dans les arguments envers Button parce qu'on aime bien le personnage, parce qu'il est plus consensuel, là où Hamilton n'est pas un personnage consensuel.
Et pour revenir à Button, c'est vrai qu'on parle d'un Hamilton qui est dans le creux en ce moment. Tout à l'heure, on parlait de Massa qui, rétroactivement, avait peut-être pu prendre un coup sur la tête du fait de la perte du titre, enfin oui, de la perte du titre en 2008. Mais moi, j'ai l'impression que Button, de plus en plus, c'est dur à dire, mais peut-être que son titre de 2009 est valorisé encore plus aujourd'hui en 2011.
Un peu à la manière d'un Mansell.
Oui. Ouais, c'est différent parce que Mansell, enfin, oui, enfin.
Non, mais c'est-à-dire que souvent, on dit un petit peu de Mansell que voilà, c'est celui qui a eu le titre en 92 sur la Williams et qu'il a été aidé par la Williams. On a tendance quand même à oublier que Mansell a été un très bon pilote avant.
Oui, oui.
Voilà, qu'il il a, pendant, faire le pendant, titre pendant la décennie, chose. Ça a été, l'un des quatre pilotes, voilà, de cette génération-là, quoi. La génération après Lauda, il y a Senna, il y a Prost, il y a Piquet, et il y a Mansell. Oui, oui. Voilà, c'est difficile de l'oublier dans la période. Et on a tendance à un petit peu à déprécier son titre, et c'est d'ailleurs ce que disait, pour rebondir à ce que tu disais, ce que disait Ben dans sa chronique du jour. Je me rappelle avoir été de ceux qui trouvaient que Button faisait un petit champion en 2009, profitant véritablement de l'incroyable supériorité de sa Brawn en début de saison pour gérer en fin de championnat avec une monoplace nettement moins fringante que la Red Bull. Mais ses victoires en 2010 et l'ensemble de sa première saison chez McLaren, où il a été loin d'être ridicule face à Hamilton, alors que beaucoup pensaient qu'il allait se faire massacrer par l'ogre de chez McLaren, m'ont convaincu que Button était bien plus qu'un champion un peu chanceux, mais un vrai pilote talentueux qui n'a pas usurpé son titre et qui vient une nouvelle fois d'inscrire son nom dans les annales de la discipline.
C'est exactement ça. C'est que c'est rétroactivement, on se dit, tiens, c'est vrai que son titre, en fait, c'est pas un titre d'épicier, c'est un titre d'un pilote talentueux, d'un mec qui sait courir et qui sait, et voilà, et qui méritait donc son titre. Quoi.
Et il est comme le bon vin, plus les années passent et mieux c'est. Allez, on va passer au classement.
Oui.
Au classement pilote. Vettel est devant avec 135 points, mais Button est deuxième avec 106 points. Eh, qui sait? Weber est troisième avec 88 points. Chez les constructeurs, Red Bull est devant 223 points, devant McLaren 190 et Ferrari 107. Red Bull a deux fois plus de points que Ferrari quand même. Hein.
Oh, arrête.
Dans l'autre classement, Vettel est devant 161 points. Il a encore perdu 7 points. Il est nul. Hein. 161 sur 175. Button est deuxième, 101 points. Donc ça veut dire que Vettel a deux grands prix d'avance. Et Weber est troisième avec 94 points chez les constructeurs. Red Bull Renault premier 255 points, McLaren 186 points et Ferrari 101 points. Tu vois, c'est encore pire en fait dans le vrai classement, dans l'autre classement. On va passer au fait marquant.
Ah oui merde, c'est pas
ça.
Oh putain, le fait marquant.
Eh oui. Est arrivé troisième avec 8 votes. Le relais en pneus tendres de Vettel.
C'est qui ça? Ah, ses auditeurs, ça c'est Antoine. Ouais.
C'est pas moi en tout cas.
Non, c'est Antoine.
Et nous avons des ex-échos.
Oh merde, putain, je suis ex-écho avec toi. Oh non.
Eh oui, je peux pas gagner toutes les semaines.
Ouais, oh, mais c'est non, mais...
Eh oui, je suis le Sébastien Vettel du fait marquant, excusez-moi.
Attends, je suis en train de me dire, le pire, c'est que je crois que j'ai voté pour toi.
Ah, ça, c'est crétin.
Ah, le mauvais.
C'était quoi les propositions?
Alors, moi, j'avais mis quoi? Le week-end des Lingues d'Hamilton, donc 16 votes, 40%. Et la course amputée de tout suspense, 16 votes, 40%.
Ouais, bah j'ai voté pour toi. Oh merde!
Je me fais malin, ça. Non, tu perds pas, tu fais ex-écho.
Oui, mais pour moi, c'est une défaite.
Donc Fab, c'est à toi.
Oui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Oh bah, la magnifique victoire de Button.
Ouais, comme ça, Clash.
Oh, pas comme ça. Bon. Voilà, comme ça, au ressenti.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on va bien trouver pourri, nous? Bon. Vas-y, Shinji.
Non.
Je serai seigneur.
Oh, c'est beau. Quelle enfoiré.
Je vais dire l'interruption de course historique.
Oh, merde, putain, comment je peux battre ça? Comment est-ce que je peux trouver un truc aussi?
Il faut trouver un superlatif encore plus fort.
Mais il s'est passé plein de choses.
Ouais, franchement, là, tu trouves rien.
Je l'ai, mais il faut que je trouve le... Allez, l'occasion ratée de Ferrari. C'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais c'est ce qui me sort le mieux en forme de phrase. J'étais parti sur Vettel, mais c'est Ferrari.
Moi, j'ai envie de dire que c'est stratégique. Ça, c'est un truc stratégique.
Non,
ça.
Non, alors, je dois te dire, je pensais à Vettel sur le fait que c'est sa première erreur. Je voulais trouver un truc genre. Vettel est humain ou un truc dans le genre, mais ça rentrait pas dans un sondage. Donc, je cherchais une formulation, et tout d'un coup, dans mon esprit, est passée l'image de Fernando. Ça a des chances de faire un truc un peu pourri.
Oui. moins de 10%.
Je dois te dire.
Donc, nous vous rappelons. Donc, les trois faits marquants que nous vous proposons. La magnifique victoire de Button, l'interruption de course historique ou l'occasion ratée de Ferrari. Donc, vous pourrez voter. Donc, c'est directement sur l'article du SAV. Donc, normalement, vous l'avez déjà vu. Voilà. Y a que toi qui as donné ton drive-thru.
Oui. Mm-hmm. Donc, du coup, vous allez devoir donner vos drive-thru hein, dans la méthode, comme l'an dernier, quoi, en fin d'émission.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
J'en ai deux en plus.
Oh,
vas-y, dis-le.
J'ai deux idées, mais c'est deux grosses, donc c'est pas comme
ça. Vas-y, vas-y.
Il y en a un qui en a deux, il y en a un qui en a zéro, apparemment.
Non, mais
non, je vais peut-être revenir sur un Dreyfus contre les commissaires, sur justement tout ce qui a été drapeau jaune, safety car, interruption de course. On n'a pas trop parlé, mais ça a quand même été un fait important. Est-ce qu'elles étaient justifiées? Est-ce qu'elles ne l'étaient pas? À la limite, je vais revenir, je vais donner mon opinion. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, en fait, parce que il y a différents cas en fait qu'on a eu à chaque fois. Clairement, le départ sous safety car, ouais, c'est quand même un peu abusé. C'est toujours le même problème. On a l'impression que c'est pas des grands garçons les pilotes de F1.
Oui, surtout que, enfin, c'est toujours pareil, quoi. On prend le plus de précautions à une époque où les voitures sont les plus sûres.
Voilà, tout à fait.
C'est toujours un peu paradoxal.
Alors, c'est vrai, ça n'a duré que 4 tours. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. On a connu des départs fleuves, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Même si je trouve que même 4 tours, c'est super long. Les pilotes, 1, limite 2 tours pour voir voilà si la piste est bonne, c'est ok. Mais 4 tours, c'est exagéré, clairement. Sans parler du fait voilà qu'on se prive d'un départ arrêté...
C'est même pas assez. 4 tours, c'est même pas assez pour être sérieux. Qu'est-ce qui, en 4 tours, a changé?
A changé, oui.
À ce point pour qu'on donne le départ? Absolument rien.
Absolument rien.
Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on donne le départ de la course comme ça, on voit qu'il pleut et on lance les voitures derrière la safety car parce qu'il pleut, alors qu'on voit très bien, par exemple, en NASCAR, que quand il pleut, les mecs, ils ont les radars météo plusieurs heures avant et ils disent, on va reporter la course de 3 heures, on va la faire demain, ou voilà, ils trouvent une solution avant la course. Là, non, on a vraiment l'impression qu'il faut absolument que la course parte à 14 heures. Enfin, là, c'était 13 heures. À 13 heures, il faut que la course, elle parte. La course, elle part et après, on se démerde, on verra comment on s'adapte. Et ça nous donne des scénarios.
Vraiment des côtés impératifs télé. Enfin, vraiment, c'est ce qui ressort.
Oui, c'est vrai que c'est quand même étonnant que la F1 ait ce complexe du jour même, de leur H jour J. Alors que d'autres sports autrement plus traditionnels, j'ai encore me référer au tennis. Par exemple, aujourd'hui, on a eu la finale du Queen's, qui est quand même un tournoi très important anglais en Angleterre, sur gazon. On a eu la finale du Queen's qui a été reportée au lendemain. Et il y a eu des finales de Wimbledon qui ont été reportées.
On a même parlé cette année de la finale de Roland-Garros qui le dernier jour pouvait être pluvieux et où il y avait un risque qu'on fasse la finale de Roland-Garros le lundi.
Pour revenir, le deuxième safety car, je le remettrai pas trop en cause parce que c'est sur un accident, faut nettoyer les débris. Comme on l'a dit, en plus Hamilton a eu la lucidité de faire plusieurs mètres alors que sa voiture était visiblement pétée, alors qu'il aurait pu à la limite le faire dès le premier virage, puisqu'il y a l'emplacement là. Mais bon, je ne le remettrai pas en cause. Alors après, il y a le safety car au 20e tour qui m'a super choqué. Parce que c'est quand même un safety car pour cause de pluie.
Ouais,
au 20e tour. Et d'ailleurs, sur le coup, moi je me disais, bon, il y a peut-être quelqu'un qui s'est pris un mur, un truc comme ça. Et finalement, la safety car ne sort uniquement que parce qu'il y a de la pluie. Elle sort jusqu'au 24e tour. Et il tourne au ralenti parce qu'il y a de la pluie. Mais pour le coup, pourquoi pas sortir le drapeau rouge tout le temps?
Ah, exactement. Je crois que c'est là-dessus.
Voilà. Soit tu peux rouler et tu les laisses rouler, soit en effet, les conditions ne permettent pas de rouler. Dans ce cas, tu mets le drapeau rouge tout de suite.
Ah, d'accord.
Exactement. Voilà.
Donc après, il y a le drapeau rouge en lui-même. Là encore, sur le seul principe, c'était peut-être... Oui, c'était sans justifier parce que quand on voit tout ce qui pleuvait... Et, en effet, le nouveau système de drainage de la pluie ne marche pas. Enfin, en tout cas, on voit pas trop la différence avec l'ancien.
Il a marché après. C'est ça qui est bizarre. C'est quand on voit l'état de la piste sans les voitures, mais par contre, dès qu'il y a les voitures, ça a super bien marché.
Ah oui, ah, il marche bien avec les voitures. Enfin, les voitures drainent bien, en fait. Par contre, ouais, c'est vrai que le drapeau rouge était quand même un peu justifié parce qu'il y avait quand même une couche d'eau
conséquente.
Là, ça aurait vraiment été dangereux. Voilà, là, ça aurait été dangereux parce qu'ils auraient fait de l'aquaplaning. Alors après, la durée du drapeau rouge, on peut se poser la question. C'est vrai que ils ont pris leur temps, ça c'est clair, hein, pour le drapeau rouge.
La dernière demi-heure était peut-être de trop.
Ouais.
Ouais. Et puis alors, non, puis en plus, c'est vrai que c'est toujours problématique, c'est les procédures de départ, qui fait que quand ils disent, oui, on va repartir, mais on va repartir dans 25 minutes parce qu'il y a toute la procédure de départ à refaire, il faudrait peut-être qu'ils pensent à, vu qu'on est quand même simplement sur un drapeau rouge, je veux dire, c'est pas le début de la course. Il faudrait peut-être qu'ils pensent justement à raccourcir ces procédures. Mais on a même eu peur à un moment qu'au moment où ils repartent, ils se remettent à pleuvoir.
Faudrait limiter le nombre de personnes autour de la voiture de F1.
Tout à fait. Peut-être. Ouais. Le pilote, un ingénieur
genre,
et basta.
Genre, la procédure peut être limitée à 5 minutes, quoi.
Mais c'est clair. Mais même, c'est pareil, on parle tout le temps de procédure, mais la procédure, c'est quoi? C'est tout le monde dans les stands, allez, les gars, oui. Vous libérez la piste, voilà. C'est-à-dire, on n'est pas non plus sur une procédure. T'sais, c'est vrai que la F1, c'est toujours des trucs, c'est l'impression que c'est sacralisé, quoi. La procédure, la procédure de départ, c'est ça. Bon. Attends, c'est la procédure de départ, tout le monde se barre de la piste, la piste est claire pour tout le monde, et puis c'est parti, quoi. C'est vrai que c'est toujours, faut toujours compliquer les choses toi, en F1, quoi.
Donc on a eu le restart et là franchement j'ai eu peur de revoir c'était le Japon. Je me suis dit oh putain on va avoir une demi-heure sous safety car.
La Corée aussi
tout à fait hein, puisqu'on a fait quand même 10 tours sous safety car. Après bon il y a deux dernières safety car, il y a celle au 37e tour suite à l'accident de Fernando Alonso. Bon là c'est pareil, 4 tours. Sans doute que ça aurait été un autre circuit européen, ça aurait été moins parce qu'ils auraient dégagé la voiture beaucoup plus rapidement. Et puis bon bah le dernier safety car, pareil, 56e, je crois que c'est après l'accident de Hedfeld.
Ouais.
Où il y avait quand même pas mal de débris.
Mais non mais c'est surtout ce qui est dingue, c'est que d'abord le safety car il met quasiment un tour à rentrer. Et que après il y a quasiment 2-3 tours avant que les débris soient retirés là. Enfin, là on arrive dans l'ordre de l'incompréhensible. On a la voiture de safety car qui fait le tour du circuit. On a l'impression qu'elle attend que Vettel vienne derrière.
Oui.
Sauf qu'elle devrait être sortie au moment où Vettel va arriver. C'est-à-dire qu'on devrait mettre le mec au bout de la ligne droite. Voilà. Prêt à rentrer dans le virage 2. Puisque la sortie des descentes se fait dans le virage 2. Dès qu'il voit Vettel arriver dans la chicane là-bas, ils disent voilà, tu démarres. Il va arriver juste derrière toi. Là non, on la lance comme ça tout de suite, alors qu'il peut très bien mettre des drapeaux jaunes, etc. On la lance tout de suite, puis on va attendre que tout le monde passe, que tout le monde se mette d'accord, etc. Puis la règle du temps minimum imposé fait que c'est beaucoup plus long à se recentrer derrière. Voilà, c'est super long, quoi.
Donc c'est vrai qu'on a eu quoi, attends, 4, 8... Attends, 4, 9, 9 et 5, 14...
32 tours.
On a eu 32 tours, alors que franchement, grand maximum, on aurait dû en avoir 10, quoi. Certes, ouais. Certes, naturellement, les faits font que de toute façon, il y aurait eu beaucoup de safety car, hein, on est d'accord. Mais peut-être une dizaine de tours, c'était amplement suffisant.
Mais surtout, c'est qu'on a l'impression que on préfère voir la course sous safety car, en tout cas chez certaines personnes, voir la course sous safety car plutôt que de ne pas voir la course. Donc on a l'impression que pour Bernie Ecclestone, pour la FOM en général et pour les diffuseurs en général, ils préfèrent voir les voitures rouler et avoir les voitures sous drapeau jaune, voir les voitures rouler, etc. Et puis la course se passe. On gagne du temps.
Voilà, alors que finalement, voilà, voir 2 heures d'interruption, c'était justifié, même si ça aurait pu être plus court. Voilà, vu ce qui flottait. Ouais, ok. Mais c'est vrai, oui, les voir tourner comme ça en rond, pour rien.
Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a vraiment l'impression, moi, c'est ce à quoi me fait penser ce règlement safety car, où à la limite, on préfère voir rouler les voitures plutôt que les mettre au garage et dire, c'est pas grave, on se retrouvera ce soir ou demain quand ce sera calmé. On a vraiment l'impression, ce qui n'est pas par exemple le cas avec la NASCAR, voilà, où il y a une...
Ça, ils disent pas, hein, s'il faut arrêter une heure...
Où on a conscience que quoi qu'il arrive, le public viendra, et puis qu'après tout, si les tribunes sont pas pleines, c'est pas grave, mais en tout cas, la course se déroulera dans les meilleures conditions. On a l'impression qu'en Formule 1, on a un impératif qui est un impératif télé, on a entre guillemets un spectateur à contenter, et que peu importe la qualité du contenu qu'on va lui donner, on va lui donner du contenu à n'importe quel prix.
C'est ça, donc, exactement.
Alors qu'on lui donne du contenu où les voitures vont aider à la safety car, c'est de la même politique avec le DRS, qu'on lui donne du contenu où les dépassements sont plus nombreux certes, mais pas forcément plus spectaculaires ou pas forcément plus intéressants à regarder. Moi, je me rappelle pas forcément de plus de dépassements cette année que l'année dernière. Pourtant, il y en a eu une palanquée de plus, mais il y en a pas énormément qui m'ont vraiment marqué les esprits. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on fournit du contenu sans forcément réfléchir à ce qu'est le sport, mais juste pour dire voilà, on va fournir du contenu, on va fournir du spectacle, et ça c'est franchement dommage.
Alors Fab, est-ce que tu as eu le temps de penser à un drive?
Non, pas vraiment. Enfin, de toute façon, je vais pas taper sur la FIA, encore une fois, c'est suffisamment fait.
Ouais.
Non, un petit drive-through pour Hamilton, et c'est vrai qu'il aurait pu s'arrêter tout de suite.
Ouais.
C'est rien que ça, il aurait pu s'arrêter tout de suite dans le virage là, en bout de ligne droite, et c'était réglé. Bon, là il a été planté à l'endroit le plus dangereux de la piste. Bon,
ouais,
c'est dommage, voilà, c'est non, dommage, il aurait pu
juste citer ma deuxième idée, mais peut-être pas aller développer. C'était juste, c'était même pas forcément contre la F1, c'était un peu contre tout le monde, FIA, équipe et tout ça, par rapport à Bahreïn. Et le côté hypocrisie, pas de couilles. Enfin voilà, entre la FIA qui dit « Oh, on va y aller », puis finalement Bahreïn dit non, ce qui fait que la FIA passe pour être complètement ridicule. Les équipes qui disent « Oh, mais finalement, on n'est pas très chaud », et qui vont faire Ils l'ont sorti d'ailleurs leur communiqué ou pas? Je sais même plus.
J'ai même pas vu.
Je sais même pas parce que comme finalement ça a été annulé.
Le retour du Grand Prix de Bahreïn, ça c'est quand même les articles qu'on a fait. Hein, les retours du Grand Prix de Bahreïn, puis finalement le fait que c'était qu'on y renonçait. On a même entre guillemets été très rapide sur l'annonce du retour de Bahreïn puisqu'on a eu l'information assez vite. Donc on l'a mis assez vite le fait que ça revenait. Finalement, ça a pas forcément si bien marché ça. Je pense tout simplement que voilà, ça fait un flop parce que les gens s'y sont pas intéressé que pour beaucoup
alors que c'est important finalement
c'est important mais voilà, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu une actualité pendant 15 jours qui a été relativement pauvre. C'est un peu le fait saillant de l'actualité et pourtant les gens semblent pas vraiment s'y être attardés. Nous de notre côté c'est pareil, enfin c'est vraiment en fin d'émission qu'on s'y intéresse. Je pense que c'est tout simplement à la mesure de cette espèce de mini feuilleton qui s'est étendu là sur quelques jours où on a eu le début, la fin de l'histoire et honnêtement qui est même pas intéressant quoi.
Oui, tout le monde passe pour des idiots en plus dans cette histoire, donc
Et puis c'est encore une fois la Formule 1 qui se soucie pas des réalités. C'est vraiment l'image que ça renvoie. En tant que passionné, c'est pas pareil, t'as pas le recul. Je pense qu'en tant que simple, on va dire consommateur du produit Formule 1, quand tu vois ça, je sais pas, enfin moi je
en plus ça risquait d'être bloqué. En plus, malgré la décision de la FIA, ça risquait d'être bloqué réglementairement puisqu'il faut l'accord des équipes pour changer le calendrier, qu'elles n'étaient pas d'accord. Enfin, ça aurait été un micmac. Ah, puis il y a l'hypocrisie absolue, c'est que on n'y va pas en 2011, mais l'an prochain.
On va y aller.
On va y aller.
Oui, alors que.
Les morts seront toujours morts. Les médecins seront sans doute en tôle parce qu'ils ont soigné des manifestants, voilà et tout.
Non, et puis enfin, je reste sur ce que je dis depuis le début de l'année. On est allé en Afrique du Sud sous régime d'apartheid.
Ouais.
T'as parlé du Grand Prix d'Espagne 75. Faut quand même rappeler que l'Espagne 75, il se déroule dans les derniers mois du franquisme.
Puis, de toute façon, on est allé en Espagne depuis les années 50. Hein,
voilà. C'est quand même. Il y a même eu des circuits où il y avait des noms de virages des circuits qui étaient à l'honneur de héros nationalistes et compagnie. Voilà, donc c'est pour ça que moi je dis, c'est en même temps c'est pas une bonne image de la F1, en même temps on peut pas non plus faire les surprises, ça a toujours été la politique de la F1.
Techniquement, la F1, à l'instar de la FIA, est neutre et ne se préoccupe pas des régimes politiques et événements politiques d'un pays. Pourquoi on ne va pas à Bahreïn? Entre guillemets, c'est pas directement pour des questions morales, c'est parce que on considère que la sécurité n'est pas assurée. C'est bon, je pense que c'est bon pour les drive-through.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
On va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Donc je vous rappelle la question d'il y a 15 jours qui vous était proposée par Zilex, qui vous demandait donc, lors de la grève des pilotes de 1982, Gilles Villeneuve a fait valoir un autre de ses talents auprès des pilotes. Lequel ? Fab, est-ce que par hasard tu as la réponse ?
Pas du tout.
Alors Shinji, est-ce que par hasard tu as la réponse ?
Je n'ai pas du tout d'idée.
Alors en fait c'est du piano.
Ah comme c'était.
C'est comme ils étaient tous, donc je crois que c'était la grève par rapport aux licences, si je me souviens bien. Ils s'étaient tous enfermés dans un hôtel et puis ils avaient passé une nuit ou un truc dans le genre. Et donc ils faisaient des parties de cartes, enfin ce qu'on peut faire quand on est 25 mecs enfermés dans une pièce quoi.
C'est un truc qui est complètement impensable aujourd'hui, j'ai envie de dire.
Sauf ça, d'accord, sauf ça. Et donc Gilles Villeneuve s'est mis derrière le piano et a fait un mini récital pour ses confrères pilotes.
Voilà. Oh, avons-nous eu des bonnes réponses?
Eh ben nous avons eu une bonne réponse.
J'aime bien le mec qui met le temps. Alors combien on en a eu? Oh là là, une.
Avec une question, que je vais même pas te poser puisqu'on a eu qu'une réponse, je dis donc.
Ah oui.
Donc je peux d'ores et déjà vous dire que c'est Steve qui a bien répondu. Philippe, félicitations Steve.
Félicitations.
Bravo.
Et donc la question que vous propose Steve, et attention, accrochez-vous bien, est la suivante. Quel pilote a remporté le premier Grand Prix d'Europe comptant pour le championnat du monde de Formule 1? On va juste rappeler quand même pour répondre à cette question. Hein. Vous allez sur le site fanf1.com, rubrique en plus, contact, et vous choisissez donc SAVF1 comme destinataire, ou plus rapidement, vous envoyez un mail à savf1@yahoo.fr, et donc vous pensez bien à nous envoyer une question qui sera à propos du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura lieu donc dans un mois, avec la réponse qui est associée. Voilà.
Passons au Grand Prix d'Europe.
Pendant de gloire, Fab.
Ah, oui,
évidemment. Alors, bien sûr, 10 bonnes raisons d'aller à Valence, c'est pas toujours très facile à trouver. 7 bonnes, putain, je vais la refaire.
Non, vas-y, garde-la.
Non, non. Je vois pas pourquoi moi, je pourrais pas.
Ça fait quand même déjà deux fois que ça t'arrive.
Ça va. Alors, 10 bonnes raisons, c'était trop dur, donc j'avais trouvé 7.
C'est magique, c'est ce qu'on te demandait.
Ah, bien sûr. Alors, donc, déjà, une première raison, bien sûr, statistique, évidemment, il y a eu 3 vainqueurs différents en 3 Grands Prix de Valence. Hein. Donc, on se demande quand même qui va pouvoir remporter cette épreuve mythique dans 15 jours. Quoi. C'est la première question. La deuxième raison, c'est quand même que Lewis a fini deuxième en 2008, a fini deuxième en 2009, a fini deuxième en 2010. Bon, est-ce qu'il va finir la course en 2011? C'est ça qu'on se demande.
Il va finir deuxième.
Alors,
donc on connaît le premier, le deuxième, c'est bien. Il peut quand même trouver le troisième. Ouais.
En juin, finalement, à Valence, il y a en moyenne 3 jours de pluie. Hein. Donc bon, si on a du bol, ça peut quand même tomber le week-end du 26. Ensuite, c'est quand même une raison qui fait plaisir, quoi. C'est parce qu'aller sur un circuit sur lequel Timo Glock détient le record du tour en course, c'est tout de même un grand moment. Ça peut quand même, c'est quand même incroyable. Ensuite, attendez, une bonne paella en sirotant une horchata des chofas, ça ne se refuse pas tout de même.
Ah oui, tout à fait.
Bien sûr, ouais.
Évidemment.
C'est dit avec tellement de passion en plus qu'on peut pas.
T'as vu? J'ai été commentateur sur Cadenasser. Hein. Alors, il sera quand même intéressant de voir si dans la cité où est mort le Cid, le duel entre Button et Hamilton vire à l'acid.
Oh, celui-là, il est pourri. Oh, celui-là, il est pourri.
Oh non, il est excellent.
Ah non, celui-là, il est pourri. Tu devrais en chercher du piège.
Oh non, quand même pas.
Déjà, je suis charrette sur la septième, alors. Alors, attention. Et enfin, la septième, c'est quand même qu'avec le Kers, avec 2 zones de DRS, ben Weber va nous tenter, non pas le double looping, mais le triple looping.
Ah oui, t'es charrette sur le dernier. Tu t'en sors bien, mais t'es charrette.
Oui. Je sais.
Ça y est, ils sont passés les 7.
Oui.
Et oui. Oh
bah, et t'aurais pu en prendre 10 parce que je les ai pas vus. C'était très agréable.
Oh bah, oui. Écoute.
Tu recommences quand tu veux.
C'est plus long à trouver qu'à faire. Hein.
Bon, alors les pronos.
Il n'y a même pas à discuter.
Bah ouais, il y a plein de virages rapides. Voilà.
C'est pour les clients, ça.
Ça, c'est facile, ça, c'est pour les experts. 2 fois champion d'Europe de suite. En plus, ils sont une équipe bien formée, tout. Il y a Luca Ballo qui est très bon en ce moment. Bon, il y en a qui ont joué à Barcelone. Bon, c'est pas très loin de Valence. Ils connaissent déjà un petit peu le terrain. Donc, moi, vraiment, je pense que c'est l'équipe de France de handball qui va gagner.
Ça va.
Écoute, après Paul Embry, après Jean-Michel, je pense que ce week-end, ce sera le week-end de Pablo, le vendeur de paella, qui va quand même se faire un mac de pognon avec tous les touristes qui vont venir.
Tous les touristes. On parle du Grand Prix de Valence quand même.
Ah oui, mais bon.
Les dockers.
Sinon, je mettrais peut-être un petit euro sur Alinghi.
Oh non, oh putain. Les pilotes de bobsleigh jamaïcains. Valence, man. Cadence, man. Et ça fait 8.
Sur ce, on va arriver à la fin de l'émission.
Enfin.
Oui. Merci Fab.
Merci encore à vous deux, évidemment.
Non, merci Fab.
Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.
Oui.
On leur souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'aimerais leur noter, que souvent on vous parle de 2 films quand on parle de sport auto. Le Mans et Grand Prix. Il faut savoir que ces 2 films viennent de sortir en Blu-ray. Donc Grand Prix qui sort en Blu-ray. Si vous aviez le DVD, c'est à peu près le même contenu. Je sais pas après si ça a été remasterisé ou pas. Pour Le Mans, c'est une copie remasterisée qui existe aussi en DVD remasterisé. Hein, si vous n'avez pas de Blu-ray, le Blu-ray est pas cher du tout. Pour vous dire, sur Amazon, il est à 12 ou 13 euros. Voilà, sur ce...
On peut peut-être, Shinji, inviter, parce que bon, vous remarquez, ça fait 2 fois de suite qu'on invite les mêmes.
Oui.
Voilà. Mmh. Si jamais vous avez envie de participer à l'émission, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un message à savf1@yahoo.fr pour poser votre candidature, puis on verra comment on peut mettre en place ça, quelle émission, etc. Sachant que vraiment le but, c'est de pouvoir permettre à plus de gens de s'exprimer, et puis voilà.
Voilà, alors salut à tous, et comme d'habitude, on vous laisse sur ces quelques mots, et je n'oublie pas de le dire, la F1 sur internet, c'est sur FanF1.
Et donc oui Shinji, nous allons nous quitter sur ces quelques mots. Si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, méfie-toi d'elle.